Il est 6h57, très bon réveil à vous tous. Nous sommes ensemble depuis 5h pour se réveiller tranquillement et c'est maintenant le top départ du 7-9 avec Mathieu Béliard. Bonjour.
Comment ça va Sébastien ?
Ça va pas mal.
Ça va bien depuis 5h, tout se passe bien.
Eh ben, on se réveille tranquillement et on s'informe.
Les auditeurs sont là, à l'écoute.
Les auditeurs sont là et ils nous écrivent sur Twitter.
On se réveille en douceur. Bonjour à vous toutes et tous. Mercredi 26 août 2020 sur Europe 1 ensemble. On écoute Le Monde Changer. Les trompettes, les tambours, vous vous souvenez des salles de cinéma, du parfum de pop-corn? Les exploitants vous attendent impatiemment. Les spectateurs ne sont pas revenus en nombre. Il faut bien dire que les films ne sont pas si nombreux non plus. Aujourd'hui sort le premier blockbuster de l'après-Covid, Tenet, film de Christopher Nolan. Et sa réussite donnera le la pour les sorties de l'automne. On va en parler ce matin dans nos journaux et dans le tête-à-tête d'Europe Matin à 7h40. Je reçois Aurélien Bosque. C'est le président des cinémas Pathé Gaumont, exploitant de 900 écrans dans 70 cinémas en France. On va rester dans les étoiles, les tapis rouges et les grandes stars, mais côté football. C'est à la une ce matin également. C'est même l'info de la soirée. Lionel Messi veut quitter le FC Barcelone, son club de toujours. Pas une si mauvaise nouvelle pour le club, nous dira Virginie Fulpin. Ça, c'est l'édito sport à 7h20. La déception des supporters catalans aussi, vous les entendrez à 8h ce matin. Sur le front du Covid, les nouvelles restrictions à Marseille, les limites de l'État-providence. Ça, c'est l'édito politique de Nicolas Bétou au sujet des masques qui ne seront pas gratuits au collège et lycée. La circulation du virus chez les enfants, ça c'est votre santé avec le docteur Jimmy Mohamed à 8h35. Très bon réveil à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur Europe 1. C'est Europe Matin qui démarre 6h59.
La météo avec Cdiscount. Cet été, même en vacances, Cdiscount livre tout ce dont vous avez besoin partout où vous êtes. Profitez de votre été avec Cdiscount.
Bonjour Laurent Cabrol.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous.
Alors le temps aujourd'hui?
Eh bien c'est un temps qui sera dans l'ensemble assez agréable, disons le mot, en dépit des nuages. Il y a eu des nuages, mais des éclaircies. Et les éclaircies vont l'emporter. Et comme il va faire très chaud pour certains d'entre nous, eh bien on a vraiment un parfum d'été encore pour cette journée de mercredi. 36 à Nîmes, 34 à Marseille, 32 à Lyon, 30 à Toulouse, Bordeaux, Dijon, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Bourges, 27, 28, 26 Paris, Nancy, 28 aussi, 26 aussi à Limoges, Épinal, 25. Bref, vous voyez, des températures qui sont vraiment encore estivales, profitons-en. Alors, dans les ingrédients que l'on a actuellement sur nos cartes météo, on s'aperçoit que le vent souffle très fort sur la Manche, 100 km/h au Cap Grinet, 80 à Abbeville et Dieppe, 70 à Lille. Vous voyez, c'est essentiellement les côtes de la Manche et de la mer du Nord qui sont touchées. On constate aussi vers Gourdon, vers Bergerac, là dans cette partie de la France, un temps où nous avons quelques pluies. Mais rapidement, les pluies vont s'estomper et partout en France, nous aurons une alternance de nuages et d'éclaircies.
Merci beaucoup Laurent.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, vous écoutez Le Monde Changé. Il est 7h.
C'est un scandale, que ça sert à rien. De fermer 23h ou 2h du matin, je vois pas la différence. Il faudrait mieux de fermer les plages, ils sont tous les uns sur les autres, plutôt que de fermer les bars et les restaurants et nous empêcher de travailler.
À Marseille, comme dans tout le département des Bouches-du-Rhône, bars et restaurants devront désormais fermer à 23h. Marseille, où le masque sera obligatoire. L'amertume des entreprises du Nord qui se sont reconverties pour fabriquer des masques en tissu, elles se retrouvent avec d'énormes stocks sur les bras et se sent abandonnés. Reportage à suivre à Cambrai. La Convention républicaine, deuxième journée avec la prise de parole de Melania Trump. Le président n'hésite pas à utiliser les moyens de la Maison-Blanche pour faire campagne. Messi et le Barça, le divorce. La star argentine décide de quitter son club, même si son contrat se termine en juin 2021. Et puis un nouveau Monopoly va bientôt sortir après celui des tricheurs. Une version très originale qu'on va vous dévoiler à la fin de ce journal.
Et juste après ce journal, l'expansion chinoise avec l'entrée en bourse d'un géant de la finance. Ça, c'est l'éclairage éco de Nicolas Barré. 7h15, le regard international de Vincent Hervouette et ce commissaire européen irlandais au cœur d'une polémique. Il a enfreint les règles sanitaires. Léo Messi au cœur de l'édito sport de Virginie Fulpin. Avant de retrouver notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern à 7h25. Aujourd'hui, l'origine de l'expression « heureux comme un pape ». Très bon réveil à toutes et à tous avec Europe Matin. Il est 7h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Que ce soit sur la Canebière, le Vieux-Port, à l'escale Borély, au Vallon des Auffes, partout à Marseille, le masque est désormais obligatoire. Les bars ainsi que les restaurants vont devoir désormais fermer à 23h.
Et ce sera d'ailleurs valable pour tout le département des Bouches-du-Rhône. Des mesures prises face à la recrudescence inquiétante des cas de contamination, elles s'appliquent dès ce soir.
Oui, mais alors que la saison touristique est encore en cours, ces mesures, elles sont très mal vécues par les professionnels. Nathalie
23h hier soir sur le Vieux-Port, les terrasses sont encore bondées, 26 degrés, mais c'est la douche froide pour ce patron de bar qui ne comprend pas l'intérêt sanitaire de devoir à l'avenir fermer boutique.
C'est un scandale, que ça sert à rien de fermer 23h ou 2h du matin, je vois pas la différence. Je vois pas, je comprends pas. Il ferait mieux de fermer les plages, qui sont tous les uns sur les autres, plutôt que de fermer les bars et les restaurants et nous empêcher de travailler. Grosse colère, ouais.
Et pourtant, la fermeture aurait pu intervenir encore plus tôt, dès 20h. Pas de quoi remonter le moral de Sofiane, restaurateur, qui attend de nouvelles aides de l'État.
Ça va, je pense, nous faire un sacré manque à gagner. Sur une ville comme Marseille, où est-ce que la saison estivale s'étend jusqu'à fin septembre, ça risque d'être compliqué. À un moment donné, il va bien falloir aller chercher l'argent quelque part.
Quant à la jeunesse marseillaise, pas totalement familiarisée avec le masque, elle prévoit déjà des solutions alternatives.
Mes amis, là, au lieu de venir là avec elles ce soir, je les aurais invitées chez moi et on aurait quand même bu un coup ensemble. C'est juste qu'on se retrouve ailleurs. Donc finalement, je sais pas si ça serait quelque chose. C'est quand même un peu moins dangereux d'être chez nous plutôt que dans un bar. On va pas inviter des gens qui sont malades, alors qu'au restaurant, on sait pas si les gens sont malades.
On s'adaptera.
Et il le faudra jusqu'au 30 septembre, sachant que pour l'instant, les rassemblements de plus de 10 personnes restent autorisés. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Les masques qui seront obligatoires pour les collégiens et les lycéens à la rentrée ne seront pas distribués gratuitement, avec des exceptions tout de même pour les personnes les plus précaires. Décision prise hier lors du Conseil de défense. Plusieurs départements et régions annoncent déjà qu'ils vont prendre le relais, tout en dénonçant un désengagement de l'État.
À l'école, dans les entreprises, dans la rue, tous masqués, mais le plus souvent avec des masques jetables. Ceux en tissu ne rencontrent pas le succès escompté. Résultat, les entreprises qui s'étaient reconverties ne savent plus quoi faire de leur production.
Et c'est le cas dans le Nord où elles sont nombreuses à s'être réorientées à la demande des pouvoirs publics. Sauf que dans le courant de l'été, les commandes publiques et celles des entreprises se sont arrêtées. Aujourd'hui, cette filière textile se sent abandonnée, comme à Cambrai où s'est rendu Lionel Gougelot.
Vous avez la partie des stocks de masques finis.
Des cartons entiers de masques textiles s'empilent dans l'entreprise de Bertrand Avio à Caudry.
Vous avez environ 120 000 modèles disponibles à la vente.
Et dans les ateliers, des tonnes de tissus pour fabriquer l'équivalent de près de 4 millions de masques, 500 000 euros d'investissement perdu, victime de la concurrence des masques papier venus d'Asie.
Quand vous savez en effet que toutes les 8 semaines à Dunkerque sont débarqués des millions de masques jetables, c'est difficile à comprendre.
Incompréhensible d'autant que nos masques tissus reviennent moins cher que les chirurgicaux, assure Mathieu de Seine à Villers-sous-Tréhaut.
Le prix du masque lavable est toujours plus rentable qu'un jetable, étant donné qu'on a des certifications jusqu'à 30 ou 50 lavages. On se retrouve avec des masques à 5-6 centimes.
5 à 6 centimes le coût de chaque utilisation.
Et pourtant, on n'a plus de boulot.
Sans compter que ces masques papier jetés comme des Kleenex se révèlent être un désastre pour l'environnement.
On les retrouve partout, dans les bois, dans les forêts. J'en ai même vu cet été dans la mer. Donc c'est vraiment une catastrophe écologique, ça.
Le masque tissu doit donc être mieux défendu, selon Bertrand Avio.
Ça permet d'avoir une action vertueuse au niveau de l'environnement et en même temps de soutenir une filière textile, des sociétés françaises, des savoir-faire.
Message en direction de la région Hauts-de-France qui veut offrir un masque pour chaque apprenti ou lycéen.
Lionel Gougelot à Cambrai pour Europe 1.
7h05 aux États-Unis, c'est la fin de la deuxième soirée de la convention républicaine qui doit officiellement nommer Donald Trump candidat à sa réélection.
Oui, une soirée marquée par l'intervention de la première dame, Melania Trump. Mais ce qu'on retient également, Xavier Yvon, c'est un mélange des genres très critiqué outre-Atlantique.
Pour gagner, on le sait, Donald Trump est prêt à tout et notamment à utiliser les moyens de la présidence pour faire sa publicité. En théorie, c'est interdit par une loi fédérale qui exige la séparation entre les activités de gouvernement et les campagnes politiques. Mais hier, Donald Trump a joué la transgression. On l'a d'abord vu accorder sa grâce présidentielle à un ancien voleur de banque.
A full pardon.
Une scène filmée à la Maison Blanche avec une signature très sonore de l'acte.
Ok.
Plus tard, revoilà Donald Trump, encore à la Maison Blanche, pour cette fois une cérémonie de naturalisation de nouveaux citoyens américains. Puis c'est son chef de la diplomatie qui a fait dans le mélange des genres.
I'm Mike Pompeo. I'm speaking to you from beautiful Jerusalem.
En visite officielle en Israël, Mike Pompeo en a profité pour enregistrer un message vidéo avec la vieille ville de Jérusalem en toile de fond, clin d'œil évident à l'électorat évangélique. Les démocrates l'accusent de violer la loi et veulent une enquête. Enfin, le clou de la soirée, Melania Trump, la First Lady.
Good evening.
Elle a délivré son discours depuis un jardin de la Maison Blanche, encore sur le fond. Ses propos contrastaient avec le ton général de la convention. Elle a refusé d'attaquer les adversaires démocrates de son mari et elle est la seule à avoir montré de l'empathie pour les victimes du coronavirus. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Les États-Unis, où la mère de Jacob Blake, cet homme grièvement blessé par des policiers à Kenosha dans l'état du Wisconsin, lance un appel au calme alors que des manifestations se multiplient dans le pays. La famille va porter plainte. A priori, Jacob Blake restera paralysé à vie.
C'est un mystère qui dure depuis des semaines. Les mutilations de chevaux un peu partout en France, on en avait parlé d'ailleurs. Un appel à témoins est lancé à Lons-le-Saunier, c'est dans le Jura, après un nouveau cas, lundi soir, le quatrième depuis la mi-août.
Les gendarmes enquêtent déjà sur une quinzaine d'actes de cruauté. Ils n'ont pas l'ombre d'une piste, Guillaume Biais, même si, et c'est une information Europe 1, une nouvelle tentative a été déjouée ces dernières heures.
Pour la deuxième fois en deux semaines, des suspects ont été mis en fuite avant de passer à l'acte. D'après nos informations, c'était dans la nuit de lundi à mardi, dans l'Yonne. Le propriétaire qui a entendu du bruit est sorti et a fait fuir ceux qui auraient pu s'en prendre à ses poneys. Mais hormis ces rares signalements, les gendarmes manquent d'indices pour élucider de telles cruautés sur des équidés atrocement mutilés vivants la plupart du temps. Le phénomène qui a commencé l'hiver dernier s'est accéléré cet été. De la Bretagne au Jura, des Hauts-de-France à la Loire, parfois plusieurs attaques la même nuit, avec de telles distances qu'il ne peut pas s'agir des mêmes auteurs. Alors, qui sont ces tortionnaires de chevaux ? Les États-Unis ou la Belgique ont déjà connu des vagues d'agressions similaires. Sans explication, pas de revendication, rien dans la littérature criminelle pour comprendre ces mutilations. Les analystes de la gendarmerie sont mobilisés, l'office qui lutte contre les atteintes à l'environnement aussi, mais pour l'instant, difficile de recouper ces affaires, les enquêtes restent locales, tous les professionnels équestres sont en alerte pour surveiller et transmettre la moindre information.
Guillaume Biais.
À Nantes, les automobilistes vont devoir bien surveiller leur compteur de vitesse. À partir de lundi, la quasi-totalité des rues sera limitée à 30 km/h.
Une décision de la maire PS Johanna Roland dans le cadre du plan piéton-vélo. Plus de 600 km de voirie concernées.
Clairement, cette mesure, elle a trois objectifs. Le premier, c'est la sécurité. Le deuxième, c'est évidemment que réduire la vitesse, ça permet de vivre dans une ville plus apaisée, avec moins de nuisances sonores. Et puis la troisième, c'est que cela permet de favoriser la pratique du vélo ou de la marche à pied. Dans cette situation difficile que connaît notre pays, il y a une sorte d'accélération des solutions. Vous savez, on reste dans un pays très jacobin et nos villes, elles ont cette capacité d'inventer, peut-être même d'aller plus vite. Parfois. Eh bien voilà là une solution très concrète pour une société plus écolo qui fait sa place à chacun.
Johanna Roland, la maire de Nantes, jointe par Hélène Terzian. Les habitants ont jusqu'au 15 octobre pour donner leur avis sur cette limitation à 30 km/h.
Cette année, il a 85 ans. Le Monopoly, évidemment, vous en avez un à la maison, le Monopoly. Plus d'un milliard de joueurs dans 114 pays et déjà 200 versions de ce jeu que nous avons tous, évidemment.
En 2018, Hasbro avait sorti un Monopoly des tricheurs, gros succès. Et bien ce matin, on va vous révéler qu'une nouvelle version arrive dans les jours qui viennent, le Monopoly des mauvais perdants.
Bonjour Florence Gaillard.
Bonjour.
Vous êtes chef de groupe des jeux de société chez Hasbro. Alors il va falloir nous expliquer en quoi ça consiste un jeu pour mauvais perdants.
Eh bien en fait, le Monopoly mauvais perdants, c'est donc notre nouveau Monopoly de fin d'année et c'est celui qui va permettre à tous les mauvais perdants d'enfin prendre leur revanche.
Vous en êtes, Hélène ?
Ça vous fait... Je ne pense pas.
Non, ça va, vous acceptez la défaite.
Je suis bonne perdante.
Qu'est-ce qui change dans les règles du jeu ?
Alors, en fait, effectivement, on connaît tous un mauvais perdant. Il y a 80% d'entre nous qui reconnaissent avoir un mauvais perdant. Et je suis sûre, effectivement, qu'aujourd'hui, il y a pas mal des auditeurs qui vont dire « Ah, ce Monopoly mauvais perdant, je sais à qui je vais l'offrir ». Alors effectivement, la règle du jeu, elle a été complètement réinventée pour l'occasion. On est bien entendu parti des règles de Monopoly classiques que tout le monde connaît et que tout le monde adore, mais on a justement des petites modifications. Par exemple, c'est vrai que quand on joue à Monopoly, eh bien on n'aime pas perdre, et encore d'autant plus les mauvais perdants. Et c'est vrai que dans cette nouvelle version, eh bien à chaque fois que vous tomberez sur une case qui fait pas plaisir, c'est-à-dire par exemple une case où vous allez devoir payer un loyer ou donner de l'argent pour sortir de prison, vous allez collecter des petits pions, et une fois que vous aurez des petites pièces, et une fois que vous aurez 4 petites pièces, vous aurez un énorme pion qui va vous permettre de retourner le jeu. C'est-à-dire que une fois que vous serez sur une propriété de quelqu'un, ce n'est pas vous qui payerez le loyer, c'est les autres qui vous paieront le loyer. Vous n'aurez plus à payer la banque, c'est la banque qui vous payera à chaque fois que vous aurez une carte caisse de communauté ou une caisse carte chance. Donc c'est vraiment un jeu qui va permettre de retourner la situation en faveur des mauvais perdants. Donc c'est ce qui va leur permettre enfin de prendre leur revanche. Donc avec Monopoly mauvais perdant, les gens ne vont plus pleurer, mais ils vont faire payer les autres.
Et on sait, on en avait parlé, hein, que les jeux de société ont connu un grand retour en grâce pendant le confinement. Merci Florence Gaillard, chef de groupe des jeux de société Hasbro, d'avoir été en ligne sur Europe 1 ce matin pour nous révéler ce nouveau Monopoly.
Lui, on ne peut sûrement pas le traiter de mauvais perdant. Une chose est sûre, Lionel Messi n'a pas du tout digéré la déroute du Barça face au Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions.
Messi, 6 fois Ballon d'Or, veut quitter son club au grand désespoir des supporters qui se sont d'ailleurs hier soir rassemblés devant le Camp Nou pour réclamer la démission de leur président.
En tout cas, quoi qu'il en soit, Jean-François Pérez, Lionel Messi a bel et bien pris sa décision.
Le FC Barcelone a été contraint de confirmer la nouvelle. Léo Messi veut donc quitter son club de toujours. La saison cauchemardesque de Barcelone, battue par le Real en championnat, humiliée 8-2 par le Bayern en Ligue des Champions, minée en coulisses par des garde-pouvoir, a eu raison de sa patience. Lionel Messi avait 13 ans quand il est arrivé à Barcelone en provenance d'Argentine. Timide, chétif, il a fini par devenir une star planétaire. 6 ballons d'or, vous l'avez dit, un palmarès hallucinant, des statistiques d'extraterrestres. Jamais on ne l'aurait cru capable d'une telle décision. Alors un bras de fer juridique avec son club est engagé. Lui affirme qu'il part libre. Le Barça rétorque qu'il est sous contrat. Le président du club, Josep Bartomeu, pourrait y perdre sa place. Et puis question, s'il va au bout de sa volonté, ce serait la fin d'une époque, bien sûr, mais où peut atterrir Léo Messi à 33 ans presque en fin de carrière. Toute la presse espagnole envoie déjà Argentin à Manchester City où il retrouverait son entraîneur favori Pep Guardiola. Mais attention à l'Inter Milan et au Paris Saint-Germain qui pourrait être en embuscade. Messi, c'est très cher. 100 millions d'euros par an. Peu de clubs, évidemment, peuvent s'offrir cette folie.
100 millions d'euros par an.
Bon, il va falloir qu'on se cotise. Merci beaucoup, Hélène Zélani. On va lancer une cagnotte en ligne. Ça marche bien, il paraît. Mais pour trouver 100 millions...
On va jouer beaucoup au Monopoly.
Ou peut-être. Pas que au Monopoly, a priori. On va en reparler avec Virginie Fulpin. Finalement, pas une si mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone que le départ de Lionel Messi, nous dira Virginie, dans son édito sport tout à l'heure, 7h14.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Le cinéma qui ne se relève pas de cette crise Covid. À 7h40, mon invité Aurélien Bosque, président des cinémas Pathé-Gaumont. Trop peu de spectateurs en salle, trop peu de films à l'affiche en réalité. Tout de suite, la Chine continue sa conquête du monde avec l'introduction en bourse d'un géant de la finance, l'éclairage éco de Nicolas Barré dans quelques secondes.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Et à 7h16 sur Europe 1, c'est l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
La Chine a conquis l'industrie, l'automobile, l'électronique, les télécoms. Elle est devenue incontournable dans presque tous les secteurs, sauf un. La finance, et c'est en train de changer.
Oui, et le symbole de ce changement, c'est l'introduction en bourse d'un géant de la finance chinoise qui s'annonce déjà comme la plus grosse introduction en bourse du monde. Changement majeur parce que le monde vit depuis plus d'un siècle sous la domination de la finance anglo-saxonne. Cette domination avait été brièvement contestée dans les années 80 par le Japon, mais très vite, la puissance de Wall Street avait repris le dessus. Or aujourd'hui, le paysage est en train de changer plus radicalement. La finance aussi devient « made in China ». Il va falloir s'y habituer.
Mais ce géant financier chinois peut faire trembler les banques occidentales ?
Exactement. Alors, on aurait tort d'ailleurs de le regarder de haut parce que voyez ce qui s'est passé en quelques années dans les télécoms ou dans l'automobile. Les Chinois étaient jadis des copieurs low cost. On disait qu'ils n'innovaient pas. Mais ce n'est plus vrai. L'innovation dans la 5G, la voiture électrique, l'intelligence artificielle et j'en passe, elle est largement chinoise aujourd'hui. Eh bien, l'étape d'après, c'est maintenant la finance. Il n'y a pas d'économie puissante sans de grandes institutions financières. Ce géant chinois, c'est simple, c'est un empire. Vous ne connaissez pas son nom, il s'appelle Ant Financial, Ant comme la fourmi en anglais. C'est en fait le bras financier d'Alibaba, le Amazon chinois. En bourse, cette fourmi devrait valoir 300 milliards de dollars, plus de 20 fois la Société Générale. Et c'est surtout un groupe financier qui compte plus d'un milliard de clients, soit finalement plus que toutes les banques européennes réunies.
Et qui regarde au-delà des frontières de la Chine.
Voilà, exactement. Comme dans l'industrie, comme dans les télécoms, eh bien, les géants chinois ne se contentent pas de leur marché. Ils ont aussi une stratégie de conquête mondiale. Ce nouveau mastodonte de la finance chinoise fait du paiement, du crédit aux particuliers et même aux PME. Bref, c'est en train de devenir un supermarché de la finance. Il innove. Au XXe siècle, vous savez, la puissance de l'économie américaine a largement reposé sur Wall Street et sur les grandes banques comme JP Morgan, Bank of America ou Citibank. Aujourd'hui, eh bien, la finance chinoise appuie la stratégie de conquête de la Chine et ce n'est que le début de l'histoire.
On va suivre, évidemment. Merci Nicolas Barré, l'éclairage éco de Nicolas Barré tous les matins sur Europe 1, 7h18. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
Le commissaire européen au commerce est sur la sellette. Depuis une semaine, Phil Hogan, c'est son nom, se débat, mais il risque de sauter, emporté par le scandale du Golfgate. Et Kézako ?
Ben c'est une affaire irlandaise, mais c'est un conte moral universel au temps de l'épidémie. Jeudi dernier, il y a 82 notables qui se retrouvent dans un hôtel tristouné de la côte ouest à Clifton. C'est le dîner annuel du club parlementaire de golf. Là-bas, on mélange volontiers la politique, le sport, le business, hein, comme on mélange le café, le whisky, la crème fouettée dans l'Irish Coffee.
Je vois que vous avez la
Alors,
recette.
Alors, évidemment, 80 participants à un dîner de gala, eh bien, c'est contraire aux règles du confinement, renforcé la veille, et il ferait beau voir que des politiciens ignorent les règles qu'ils imposent aux autres. Le Golfgate éclate, les médias dénoncent les hypocrites, ils ont violé le confinement, c'est pire que de se livrer à une orgie. Le ministre de l'Agriculture a honte, trop tard, il est démissionné. Le président du Sénat se roule par terre, en vain, il est emporté par le scandale. Le commissaire européen, Phil Hogan, prétend, lui, qu'il ignorait les règles. Et quand le Premier ministre lui demande de se faire araquérir, bien il répond qu'il va y réfléchir. Alors la pression augmente. On apprend qu'il s'est rendu, et par deux fois, diabolicum est, dans un comté interdit à cause d'un cluster. Il a même été contrôlé alors qu'il téléphonait au volant, crime atroce. Encore quelques jours, on devrait découvrir qu'il fait des blagues slasses ou qu'il aime bien le professeur Raoul. Bref, Phil Hogan est cette semaine l'homme à abattre, sauf qu'il n'y a personne pour immoler ce bouc émissaire.
Personne ne peut le forcer à démissionner.
Ben, un commissaire est inexpugnable pendant 5 ans et seule la présidence de la commission peut le déboulonner. Phil Hogan a remis hier une lettre de 4 pages à Ursula von der Leyen qui lui a réclamé des comptes. Va-t-elle le sacrifier ? Eh bien, ce serait conforme à sa prétention d'incarner des valeurs exemplaires de classe mondiale, comme elle dit, mais ça remettrait en cause l'équilibre savant de son équipe. L'Irlande y perdrait un poste en vue, l'Europe se priverait d'un bon négociateur et elle en a besoin face aux Américains et aux Britanniques. Phil Hogan, lui, il a le cuir tanné d'un politicien qui a été réélu pendant plus de 20 ans. Il a le gabarit de Lino Ventura. Il résiste, car il refuse de renoncer à Bruxelles, terre promise des politiciens qui ont droit à une seconde vie.
Le regard international de Vincent Hervouet tous les matins à 7h15 sur Europe 1. Merci Vincent, 7h21. À suivre sur Europe 1, c'est votre nouveau rendez-vous d'histoire à 7h25. L'origine de l'expression « heureux comme un pape ». On va retrouver Stéphane Bern tous les jours dans Europe Matin. Mais tout de suite, Nicolas Barré, Vincent Hervouet, non ? L'hymne du FC Barcelone. Ils n'ont pas dormi de la nuit, les Catalans. Lionel Messi veut quitter le Barça. La presse se déchaîne, les supporters pleurent. Et si c'était une bonne nouvelle pour le club ? L'édito sport de Virginie Fulpin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Et à 7h23, je dis bonjour Virginie Fulpin.
Bonjour Mathieu Béliard.
C'est l'édito sport. Et vous savez que depuis que nous avons pris l'antenne ce matin, ils attendent, les auditeurs d'Europe 1, ils attendent de savoir ce que vous allez nous dire de Lionel Messi. C'est l'info de la soirée. Messi qui veut quitter le FC Barcelone. L'Argentin a mis tout le monde du foot en émoi hier soir quand on a appris qu'il voulait partir. Pour vous, c'est peut-être une meilleure nouvelle pour le FC Barcelone que pour le club, quel qu'il soit, qui accueillerait Lionel Messi en cas de départ avéré.
Bon, alors, faut d'abord digérer le choc. Hein. Lionel Messi et le Barça, on croyait qu'ils étaient inséparables. Hein. 20 ans de vie commune, l'Argentin a tout fait gagner à son club de toujours, tout reposé sur lui. Il a littéralement porté le FC Barcelone, c'était le patron sur le terrain, dans le vestiaire, partout. Peut-être même un petit peu trop, parce que depuis de longs mois, ça ne marchait plus vraiment, une mécanique grippée. Peut-être que Lionel Messi en avait un peu marre aussi de tout porter sur ses épaules. Quand ça ne sourit plus, c'est un vrai fardeau. Et puis la déroute 8-2 contre le Bayern Munich a été la goutte d'eau. Alors c'est un choc, oui, mais de toute façon, le Barça devait se reconstruire. C'est presque un champ de ruines. Donc au moins, là, le club ne peut plus se cacher derrière Messi et il va devoir entrer pour de bon dans une nouvelle ère. Ça peut prendre un peu de temps, c'est contraint et forcé, d'accord. Mais puisque c'était indispensable, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça, ouais, pour le club. Même s'il faut faire le deuil de la période enchantée de Lionel Messi et que c'est extrêmement dur.
Et hein. maintenant, là, c'est parti. Hein. Parti, vous le savez, les spéculations sur le futur club de Lionel Messi.
Alors, même s'il y a une bataille juridique à venir hein, entre le Barça et le joueur, oui, ça a déjà commencé. Alors, soyons clairs, il n'y a pas des dizaines de clubs qui peuvent l'accueillir, hein, même s'il n'y a pas de transfert astronomique à régler. Et ça reste encore à préciser. Rien que le salaire, ça fait déjà aller 100 millions d'euros par an. Donc
comme
qui
ça.
Voilà, comme
mouiller.
Ça, exactement. Bah, Manchester City, Manchester United peut-être, éventuellement l'Inter Milan. ou, oui, le Paris Saint-Germain. En gros, c'est ça, si Messi reste en Europe. Hein. Mais moi, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de le recruter. On parle d'un joueur qui ne va pas arriver dans une équipe pour se fondre gentiment dans le collectif. Hein. Oui, il est extraordinaire, il n'y a pas de débat là-dessus. Oui, c'est on ne peut plus tentant. Mais en le recrutant, vous remettez en cause tout ce que vous avez construit avant. Parce que tout va tourner autour de lui. C'est une vision à court terme aussi. Parce que même si on aime l'imaginer éternel, il a quand même 33 ans. Et ça n'est pas forcément comme ça que vous gagnez. On le voit avec Cristiano Ronaldo à la Juve, par exemple. Là, je parle du terrain, parce que si le but, c'est le rayonnement international du club, oui, faire venir Lionel Messi, c'est le coup du siècle. Vous devenez le centre du monde. Tout ça, c'est une question de priorité.
Merci Virginie Fulpin, voilà qui nous donne à réfléchir pour ce mercato un peu perturbé par le Covid aussi, et donc par le départ de Lionel Messi du FC Barcelone. Merci Virginie, l'édito sport tous les matins, 7h25. Et c'est l'heure de retrouver, comme tous les jours, notre moment d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle expression dont on va découvrir l'origine. Je voulais rendre hommage à votre sourire qui, malgré l'actualité parfois chargée, fait toujours plaisir à voir et à entendre. Il y a 42 ans, jour pour jour, c'était l'élection de Jean-Paul Ier. Vous vous souvenez de Jean-Paul ? Non, vous étiez trop jeune, pardon. Celui qu'on a surnommé justement, il Papa del Sorriso, le pape du sourire. Malheureusement pour lui, le rictus fut de courte durée, puisqu'il meurt 33 jours et 6 heures après avoir été intronisé chef de l'Église catholique. Et en parlant de pape et de sourire, me vient une question. Savez-vous pourquoi on dit « heureux comme un pape » ?
Aucune idée.
C'est vrai ?
Non.
La raison, en fait, est simplissime. Il est évident que, pour un ecclésiastique, devenir pape et être élu par les cardinaux représente un sommet pour qui entre dans les ordres. Pape, c'est la fonction la plus élevée dans la croyance catholique. Il n'est pas possible d'être plus près de Dieu. Si on est pape, on ne peut pas être plus heureux. Autre expression papale moins connue mais plus étonnante encore, se croire le premier moutardier du pape.
Ah, je l'aime bien celle-là.
Oui. Celle-là, si vous arrivez à la placer dans un dîner, là vous réserverez les holas de l'assistance, mais invitez-moi hein, parce que ça m'est encore jamais arrivé. Cette expression qui signifie être prétentieux vient de Jean XXII. Il devint pape en 1316 et avait un péché véniel, celui d'aimer la moutarde. Il aimait tellement la moutarde que dans l'organigramme du Vatican, il crée un nouveau titre, celui de premier moutardier du pape.
Quel beau métier.
Oui, il donna ce rôle à son neveu, c'est ce qu'on a appelé le népotisme, qui aurait pris très à cœur sa nouvelle mission avec un ridicule qui est resté dans les mémoires, vu l'importance toute relative de la fonction. Pour Émile Littré, l'homme du Littré, ce titre n'a jamais existé dans l'histoire du Vatican et cette histoire est en fait peu probable, mais au fond, qu'importe. La légende est tellement belle qu'elle l'a presque rendu réel.
Mon cher Stéphane, on va vous retrouver à 16h dans Historiquement Vôtre. Qu'y a-t-il au programme aujourd'hui ?
De l'eau de rose. Je ne sais pas si vous en buvez. En tout cas, on va parler de ces romans un peu olé-olé que beaucoup n'osent pas dire qu'ils aiment lire. On va vous raconter les destins de trois plumes. Les So British Jane Austen, Barbara Cartland, avec sa choucroute et son pékinois griffé sur le bras. Et puis Bruno Le Maire aussi, que vous avez la chance d'interviewer régulièrement. Oui, oui, notre ministre de l'économie, il n'a pas écrit que des discours rébarbatifs, mais aussi des récits érotiques. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Mathieu Noël. C'est tous les jours sur Europe 1 de 16h à 18h.
Alors à ce soir, mon cher Stéphane, et puis à demain en ce qui nous concerne, 7h25 dans Europe Matin. Laurent Cabrol est avec nous à 7h29 pour la météo.
Je ne ferai pas une météo à l'eau de rose, parce que ça serait un peu trop osé. Bon, il y a le temps qu'il va faire et l'impression de temps qu'il va faire. Ce sont deux nuances très différentes. Le temps qu'il va faire, si je regarde les cartes, je vous dirais, chers amis, il y a beaucoup de nuages, il y a quelques éclaireurs, des éclaircies. Nous avons un petit peu de pluie en Dordogne en ce moment, nous en avons un petit peu aussi dans le Lot, et nous avons de très gros vents sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord. Bon, quand je vous dis ça comme ça, vous dites, tiens, pas terrible la journée. Eh bien si, c'est une journée pas mal du tout. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des températures extrêmement élevées, 36 à Nîmes, 34 à Marseille, 32 à Lyon, 28 à Nice, 27 à Dijon, 26 à Paris, 25 à Épinal. Donc des températures agréables à supporter et agréables à vivre dans un ciel qui sera jamais limpide, mais un ciel qui sera toujours clément et vous allez vous régaler avec cette journée dont il faut profiter puisque ça ne va pas durer, je vous l'ai dit et je vous le redis, la fin de semaine s'annonce frisquette.
Fraîche, vous l'aviez dit, effectivement. Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Sophie Echen, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
S'ennuie pas, du début jusqu'à la fin.
C'est du Nolan, c'est superbe. J'irai le revoir une deuxième fois.
La sortie dans les salles de Tenet, le tout nouveau film de Christopher Nolan aujourd'hui. Les cinémas attendent beaucoup de ce blockbuster, le premier depuis le déconfinement. L'État a tranché, il ne fournira pas de masques gratuits pour les écoliers. Une décision qui suscite l'incompréhension des professeurs. Dans ce journal aussi, retour sur l'agression d'un jeune homme à Lyon qui avait suscité beaucoup d'émotions sur les réseaux sociaux. On en sait plus sur ce qu'il s'est vraiment passé. Aux États-Unis, la famille de Jacob Blake tente de calmer les tensions alors que de nouvelles manifestations secouent le pays après l'agression de ce noir américain par des policiers blancs. Vous l'avez sans doute remarqué, cet été, les guêpes et les frelons sont sortis, bien plus nombreux que d'habitude, et il devient difficile de s'en débarrasser. Et puis, un homme sur deux est une femme, c'était le slogan affiché par les premières militantes du MLF, le mouvement de libération de la femme qui fête ses 50 ans aujourd'hui.
Juste après ce journal, le tête-à-tête Europe Matin, Aurélien Bosque, président des cinémas Pathé-Gaumont dans ce studio, comment faire revenir les spectateurs en salle. On va vous parler d'un tout nouveau podcast Europe 1 studio, ça s'appelle Le son de vie, c'est dans quelques instants. Et à 7h50, le masque ne sera pas distribué gratuitement aux élèves. Les limites de l'État-providence, c'est l'édito politique de Nicolas Bétou. Très bon réveil à toutes et à tous, il est 7h31 sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Celles et ceux qui ne sont pas encore retournés dans les salles obscures depuis le déconfinement vont-ils enfin changer d'avis? Le dernier Christopher Nolan, Tenet, est à l'affiche à partir d'aujourd'hui. Et l'enjeu est énorme pour les cinémas.
Cela fait des mois que les sorties sont repoussées. Alors cette grosse production, la première depuis la sortie du confinement, pourrait enfin relancer la fréquentation des salles. Mathieu Charrier.
Tenet et ses plus de 200 millions de dollars de budget vont faire figure de test pour beaucoup de studios hollywoodiens. En cas de succès, notamment dans les salles françaises, ça les encouragera à sortir leurs autres blockbusters, remisés au placard depuis la crise du Covid-19, le nouveau James Bond en tête, toujours décalé au 11 novembre. Mais en cas d'échec, ça risque d'être, sauf qui peut, alerte un gros exploitant de salles, et ces mêmes studios seraient alors tentés de diffuser leurs films directement sur les plateformes type Prime Video, Netflix ou Disney+. Certains ont d'ailleurs déjà commencé à l'image de Disney et son nouveau Mulan. Mais il y a des raisons d'y croire, car Christopher Nolan affiche déjà plus de 20 millions d'entrées au compteur rien qu'en France avec ses précédents films, la trilogie Batman, Inception ou Interstellar. Et puis les avant-premières programmées partout en France depuis plusieurs jours attirent du public conquis à la sortie.
Moi, c'est la première fois depuis le déconfinement, on s'ennuie pas, du début jusqu'à la fin.
C'est du Nolan, c'est superbe, j'irai le revoir une deuxième fois.
Je pense qu'il faut le voir plusieurs fois avant vraiment de comprendre l'histoire totalement.
Car effectivement, comme dans certains de ses précédents films, Nolan joue de nouveau avec la temporalité dans ce Tenet. Un agent de la CIA étant chargé d'empêcher l'extinction de notre civilisation, orchestrée par un homme depuis le futur. 2h30 de grand spectacle, complexe mais jouissif.
Voilà une idée de sortie, hein, pourquoi pas, pour profiter des derniers jours de vacances, car dans moins d'une semaine maintenant, il faudra reprendre le chemin du bureau ou celui des classes.
Plus de 12 millions d'élèves s'apprêtent à faire leur rentrée dans des conditions parfaitement inédites. Les précisions sur le protocole sanitaire seront apportées cet après-midi par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Ce qu'on sait déjà, c'est que le masque sera obligatoire pour tous les collégiens et les lycéens.
Obligatoire, mais pas gratuit. Le gouvernement a annoncé sa décision hier. Celle-ci sera validée en Conseil des ministres ce matin. Résultat, les collectivités territoriales s'organisent pour distribuer des masques gratuitement. Mais du côté des enseignants, la mesure du gouvernement a du mal à passer. Écoutez Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES-FSU.
C'est une décision qui nous semble vraiment incompréhensible. On a d'un côté un gouvernement et notamment un ministre de l'Éducation nationale qui se targue de prendre des mesures sociales, de sécuriser la rentrée, d'être à l'écoute des familles. Et de l'autre côté, on voit bien que ça ne se traduit pas dans les actes, puisque les masques n'étant pas fournis aux familles, ils vont peser très lourd dans leur budget. Il y a certains élèves qui vont peut-être avoir des masques de la part de la collectivité territoriale, d'autres qui n'en auront peut-être pas, alors que puisqu'on est dans le cadre de l'éducation nationale, c'était bien au ministère, à l'État, de prendre en charge cette dépense-là pour que tous les élèves et toutes les familles soient traités de la même façon sur l'ensemble du territoire, dans tous les collèges ou dans tous les lycées.
La numéro 2 du syndicat SNES-FSU avec Ève Roger, le masque, il faudra désormais vous y habituer si vous vivez du côté de Marseille.
À partir de ce soir, il devient obligatoire dans tous les quartiers de la ville. Et puis les bars et les restaurants de toutes les Bouches-du-Rhône devront désormais fermer leurs portes à 23h, au moins jusqu'à fin septembre.
7h34, on vous racontait hier matin sur Europe 1, à la même heure, l'histoire d'Augustin. Cet adolescent de 17 ans, victime d'une agression à Lyon, frappé en plein centre-ville, place Bellecour. Il tentait, selon sa famille, de défendre plusieurs filles importunées par un groupe de jeunes.
L'affaire a suscité de nombreuses réactions, notamment chez les élus du Rassemblement National ou chez Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Seulement voilà, l'enquête a progressé et l'histoire n'est pas tout à fait celle que les proches du jeune homme ont racontée, Guillaume Biais.
Il n'y a pas eu de passage à tabac vendredi soir, place Bellecour. Celles qui en attestent, ce sont les adolescentes qu'Augustin a voulu protéger quand il s'est interposé entre elles et des garçons un peu insistants.
Augustin s'est mangé une pêche. Il a pris un coup de poing dans la mâchoire. Et il a dit comme quoi une de ses dents avait été cassée. Après, les garçons sont partis. Donc, sachant que moi et mes copines, nous sommes interposés et ne sommes pas partis, on s'est assuré que tout allait bien. On est resté plus de 20 minutes avec lui.
À la base, il a voulu bien faire pour vous aider.
Oui, il a voulu bien faire. Merci à Augustin de s'être interposé, sauf que je pense pas que c'était nécessaire. Sauf que les réseaux sociaux, ils ont commencé à alimenter tout ça et ils vont commencer à mentir et à dire n'importe quoi. Comme quoi, un garçon l'avait frappé, qu'il l'avait laissé pour mort et que nous aussi. Alors que vraiment pas du tout, c'est vraiment pas ce qui s'est passé. Il s'est mangé un coup de poing et on s'est quand même assuré qu'il allait à l'hôpital et que tout allait bien.
Choqués par l'emballement de cette affaire, les deux ados qui ont même reçu des menaces de mort sont allés témoigner au commissariat, vidéo à l'appui. Elles tenaient à apporter leur version des faits, plus mesurée, alors que les policiers tentent de retrouver l'auteur du seul et unique coup de poing.
Guillaume Bié du service police-justice d'Europe 1.
La tension ne faiblit pas aux États-Unis où plusieurs grandes villes sont devenues le théâtre de mobilisations parfois violentes depuis dimanche.
Les manifestants dénoncent l'agression de Jacob Blake, un Afro-Américain grièvement blessé par la police. Sa famille lance un appel au calme. Xavier Yvon.
Une famille éplorée, des avocats protecteurs et une forêt de micros. La scène est presque trop familière.
« I shot my son seven times, seven times. »
Ils ont tiré sur mon fils sept fois. Sept fois, s'est indigné le père de Jacob Blake, toujours hospitalisé. Les balles ont sectionné sa moelle épinière, endommagé son foie et ses reins. Il a dû subir une ablation partielle de l'intestin. À sa mère, il a dit
« I don't want a burden on anybody and I don't think I'm gonna walk again, mom. »
Je ne veux pas être un fardeau, je ne crois pas que je remarcherai un jour, maman. Sa mère, elle, a appelé au calme et délivré un message puissant.
As I pray for my son's healing,
je prie pour la guérison de mon fils, a-t-elle dit, mais aussi pour la guérison de notre pays.
Of our country.
L'avocat Ben Crum, qui est aussi celui de la famille de George Floyd, a réclamé l'arrestation et le renvoi des policiers impliqués.
I don't want your pity.
Je ne veux pas de votre pitié, a conclu l'une des sœurs de Jacob Blake.
I want change.
Je veux du changement. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
7h37 sur Europe 1. C'est une véritable invasion hein, dont vous avez peut-être été victime. Celle des guêpes et des frelons, ils sont partout cette année, du jamais vu selon les désinsectiseurs.
La faute notamment à un hiver trop doux qui a généré une explosion des nids partout en France avec une conséquence directe. Les abeilles sont au premier rang des victimes de ces nuisibles. C'est un fléau pour les apiculteurs mais aussi pour les professionnels chargés de détruire ces insectes.
Un exemple en Loire-Atlantique où 760 nids de frelons asiatiques ont déjà été détruits hein, depuis le début de l'année. C'est deux fois plus que l'an dernier. François Coulon.
Oh les saloperies. Ah.
Deux nids de frelons asiatiques à 5 mètres de haut dans un jardin du Loroux-Botreau. En combinaison, Cédric Guillot vaporise un neurotoxique foudroyant. Ce spécialiste est actuellement submergé d'appels à un niveau inédit.
C'est vraiment un truc de fou, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de frelons, beaucoup plus que d'habitude. Je pense que c'est lié à l'hiver doux qu'on a pu avoir, où toutes les reines fécondées ont survécu à l'hiver. Et le printemps chaud et sec, et l'été chaud et sec, qui vraiment a dû favoriser tout ça.
C'est une vraie explosion ?
Ah oui, vraiment. De 8h le matin, et je rentre chez moi la plupart du temps, aux alentours des 22h le soir. Et ça, c'est 7/7, et j'arrive plus à tout fournir.
Jérémy Gourdien est technicien à l'association Pollenise, qui supervise les destructions de nids de frelons asiatiques en Loire-Atlantique.
On en est à 760 destructions, le double de ce qu'on avait l'an dernier. La particularité du frelon asiatique fait que quand il se sent agressé, il a la capacité d'attaquer en nombre, c'est-à-dire que tout le monde sort du nid pour protéger la colonie.
Des apiculteurs désespérés ont découvert un nid de 80 cm de diamètre contenant près de 15 000 frelons. Le Loroux-Botreau, François Coulon, Europe 1.
Enfin, c'était il y a 50 ans, jour pour jour, 26 août 1970, 9 femmes décident d'une action commune sous l'Arc de Triomphe à Paris. C'est le tout premier coup médiatique de militantes féministes en France.
9 femmes qui veulent déposer une gerbe de fleurs pour rendre hommage à l'épouse du soldat inconnu. Un événement qui marque la naissance officielle du MLF, le Mouvement de Libération de la Femme.
Vous allez entendre la militante historique Cathy Bernheim ainsi que des témoignages d'archives d'Europe 1, notamment le Premier ministre de l'époque, un certain Jacques Chaban-Delmas. Retour sur un demi-siècle de lutte pour les droits des femmes.
Alors le 26 août 1970, on a cherché à faire un événement qui puisse marquer les esprits. Une de nos amies qui était journaliste est allée annoncer qu'il allait se passer quelque chose d'extraordinaire à l'Arc de Triomphe. on est descendu de nos véhicules banderoles déployées, qui disaient « un homme sur deux est une femme ». On a commencé à avancer vers la flamme, et à ce moment-là sont apparus des policiers qui se sont précipités sur les unes et sur les autres. Je me suis retrouvée avec un bras tordu dans le dos et poussé un peu plus rudement. Donc voilà 9 femmes embarquées par la police qui ne savaient d'ailleurs pas du tout ce que c'était que ce ramdam, si je peux dire.
Comment imaginer la carrière féminine comme identique à une carrière masculine ? Ne serait-ce que parce que c'est vous qui avez la charge de la maternité.
Non, non, non. On s'amusait vraiment. Il s'agissait d'être heureuse et joyeuse dans une lutte qui n'était pas toujours heureuse et joyeuse, mais qui au moins nous donnait l'énergie et la puissance de nous faire entendre.
La militante Cathy Bernheim, jointe pour Europe 1 par Marine Protet.
Merci beaucoup Sophie Echen, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
C'est au programme ce matin, 8h15. Sonia Mabrouk reçoit Éric Woerth, le député Les Républicains et président de la Commission des Finances. C'est l'invité politique d'Europe Matin aujourd'hui à 8h15, je vous le disais. Mais tout de suite, la culture très lourdement impactée par la crise Covid, vous le savez. Tenet de Christopher Nolan sort aujourd'hui, on en parlait. Les exploitants de salles l'attendent comme des agriculteurs qui attendraient la pluie. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à retourner en salle? Le tête-à-tête Europe Matin avec Aurélien Bosc, président des cinémas Pathé Gaumont, dans un instant.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Et à 7h43 sur Europe 1, j'accueille Aurélien Bosc, président des cinémas Pathé Gaumont. Bonjour Aurélien Bosc.
Bonjour Mathieu Béliard.
Et merci d'être venu en studio avec nous, répondre à nos questions, nous expliquer votre situation. Alors en France, je regardais, hein, Pathé Gaumont, vous exploitez 70 cinémas, 900 écrans.
Absolument.
Je parle sous votre contrôle. Et là, on parle d'une fréquentation extrêmement faible, une place sur 3, une place sur 4.
Oui, tout à fait, à peu près 30% de la fréquentation de l'année précédente.
Et donc une sous-fréquentation qui implique un manque à gagner énorme, vous le chiffrez ?
Bon, on le chiffre en plusieurs dizaines de millions. C'est depuis le début du confinement, on est dans une situation économique qui est assez complexe et qui ne s'est pas véritablement améliorée avec l'été. Alors elle s'est atténuée, mais elle ne s'est pas véritablement améliorée.
Alors ça devait être ma dernière question. Alors chez Pathé Gaumont, vous êtes un groupe solide, confortablement installé dans le paysage. On va avoir des fermetures de salles, je pense peut-être aussi à des cinémas indépendants. Il va y avoir des fermetures de salles dans les mois à venir.
Je pense qu'il y a des situations qui sont individuellement compliquées pour les gros circuits. On a une situation économique suffisamment solide pour résister pour le moment à la situation. Je pense que des exploitants qui vont être indépendants auront une complexité plus importante d'un point de vue financier.
Sauf que la réalité des salles comme les vôtres, et ça il faut que nos auditeurs le comprennent bien, c'est que vous avez investi dans ces salles, investi pour accueillir des films grand public, des gros budgets, une bonne qualité de son, une bonne qualité d'image, et ces films-là, non seulement il n'y a plus de spectateurs, mais il n'y a pas assez de films. Vous n'avez pas eu de films américains depuis la sortie du confinement, par exemple.
Vous avez raison, c'est vrai qu'on a mis plusieurs centaines de millions pour moderniser très fortement notre réseau de salles pour s'adapter à ces grosses productions américaines, à ce gros spectacle. Depuis la réouverture des salles, on n'a eu aucun blockbuster américain véritablement.
Ce sont les films allez, grand public qui marchent l'été.
Ce sont ces films grand public qui génèrent du monde l'été. L'année dernière, Le Roi Lion, c'était 9 millions de personnes en salle, voyez. Donc effectivement, ce sont ces grosses locomotives qui font venir les gens au cinéma.
Je n'ai qu'un mot à vous donner. Tenet. Il vous ouvrira les bonnes portes et parfois aussi les mauvaises.
Et je le disais, c'est donc le premier blockbuster de l'après-Covid, on va dire. Tenet, Christopher Nolan, vous l'avez peut-être vu sur les Batman, sur Inception, Christopher Nolan, sur Interstellar. Il sort aujourd'hui, gros budget, grand public. Ce film, il va donner là finalement.
Oui, c'est un indicateur qui est très important, je pense, pour le métier, pour la profession. Le fait qu'on ait cette sortie en Europe qui soit avancée des États-Unis, c'est finalement un signe fort de soutien aux exploitants, aux salles de cinéma. Et donc, la capacité d'avoir nos spectateurs à nouveau et des spectateurs qui sont parfois des occasionnels, qui reviennent en salle, c'est quelque chose qu'on attend impatiemment. Les avant-premières des deux derniers jours ont été très, très remplies. Donc, on a eu un vrai succès, une vraie appétence pour le film depuis maintenant 48 heures. Maintenant, on espère que ça va se confirmer dans le temps.
Petit rappel d'ailleurs, parce que peut-être que certains vont se dire « Allez, ce matin, je vais aller aider les cinémas en allant voir un film ». On peut aller au cinéma, on porte son masque tant qu'on se déplace, mais pas quand on est assis.
Oui, vous avez raison. C'est bien de rappeler les règles. Les règles sanitaires aujourd'hui, c'est on porte son masque dans les lieux de circulation, on s'assoit en salle, on a des fauteuils qui vont être libres de chaque côté de soi pour assurer la distanciation nécessaire, et on regarde son film au choix avec un masque ou sans, mais il n'y a pas d'obligation de porter un masque en salle.
Et quand je disais que ce film Tenet pourrait donner le là, c'est qu'il y a de très beaux films, de très gros films attendus sur l'automne. Il y a un James Bond qui est toujours dans les tiroirs.
Absolument.
Qui devait sortir à l'origine au mois d'avril. Côté français, il y a Kaamelott, Alexandre Astier, qui devrait bien marcher. Il y a aussi ce biopic non autorisé là, sur Céline Dion par Valérie Le Mercier.
Absolument.
Tout ça, normalement, vous vous dites, ça devrait faire revenir les spectateurs dans les salles.
Bah, si, très factuellement, si on regarde le papier, le line-up de films, donc tous les films qui sont annoncés pour les 4 mois qui viennent, on a une offre de films qui est assez fantastique. Donc ce signal, cette rentrée en cinéma avec Tenet est importante, et on pense que ce film qui a un électrochoc un peu visuel quand on est en salle, on en reparlera peut-être, mais c'est quelque chose qui est très marquant. On pense que c'est le type de film fait pour le cinéma qui fait revenir les gens en salle.
Oui, parce que c'est le genre de film qui se regarde au cinéma.
Absolument. C'est en tout cas,
certains de vos clients ont pris des habitudes pendant le confinement avec les plateformes Netflix, Disney+, etc.
Oui, mais un film comme ce film de Nolan, c'est un réalisateur qui construit son film véritablement pour qu'il soit regardé en salle obscure, en cinéma. Et donc la façon dont le film est construit, les effets visuels qui sont proposés sont vraiment conçus pour des écrans parfois de plus de 400 mètres carrés. C'est comme ça que Christopher Nolan bâtit son film en réalité.
Vous n'avez pas peur que les cinéphiles aient pris ces nouvelles habitudes de canapé plateforme, pour faire simple?
Vous savez, on pense que les consommateurs de contenu sur des plateformes sont aussi des très grands fans de films et des très grands fans de cinéma, que c'est pas exclusif, c'est des expériences qui sont différentes. Pour nous, le cinéma, c'est une vraie expérience de sortie, ce qui n'est pas le cas quand on reste chez soi.
Je pense, on parle tout le temps de Netflix, mais il s'est passé quelque chose cet été, c'est Mulan, le film Disney, la version filmée du dessin animé d'il y a 20 ans. Disney a finalement choisi de le sortir sur sa plateforme, de le faire payer un tarif intéressant. Pour vous, c'est quoi? C'est un coup bas? Dans le contexte,
je pense que c'est une sortie qui est liée à cette situation exceptionnelle. Encore une fois, je pense que Disney a fait ce choix au niveau mondial, donc il n'y a pas une véritablement une décision pays par pays. Peut-être que la France, avec sa situation, aurait peut-être pu effectivement exploiter le film. Donc dans la situation économique actuelle, c'est une situation qui a été difficile à vivre pour certains exploitants. Aujourd'hui, si on se replace sur une relation long terme avec Disney, on voit que c'est un studio qui nous produit des films assez exceptionnels et qui sont véritablement aussi proposés pour la salle.
Vous dites passe pour cette fois parce que le contexte est exceptionnel, mais on veut revoir des Disney dans les salles.
Bah, on espère, et pas que nos spectateurs espèrent voir des Disney dans les salles.
Vous attendez quoi du gouvernement aujourd'hui, français?
Aujourd'hui, je pense qu'il y a un plan de relance qui est en train d'être bâti, et il faut que la culture et le cinéma soient clairement intégrés dans ce plan de relance. On a proposé un certain nombre de mesures à la ministre, et on espère que le CNC sera réarmé afin de pouvoir véritablement accompagner la filière.
Justement, j'en terminerai par là, parce que vous achetez une place de cinéma pour aller voir un film en salle. Il faut savoir qu'il y a une part de ce que vous dépensez qui va directement au CNC pour financer l'exception culturelle française, le Centre National du Cinéma. On va avoir un gros problème sur la production des films à venir, en fait. On va manquer d'argent si vous ne remplissez qu'à 30%.
Bah, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a une équation économique du CNC qui est atypique cette année avec le Covid, et qu'il va falloir contourner, ou en tout cas trouver des modes de fonctionnement qui permettront à la filière tout entière, et donc pas uniquement aux salles, mais à la filière complète, d'avoir des perspectives économiques satisfaisantes.
Merci Aurélien Bosque. On va regarder de très près les entrées pour ce film Tenet. Christopher Nolan dans les salles aujourd'hui. Il y en a d'autres, des films évidemment, hein, il y en a pour tous les goûts toujours. Aurélien Bosque, président des cinémas Pathé-Gaumont, merci d'être venu expliquer cette situation particulière ce matin sur Europe 1.
Merci.
7h51.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Et ce matin, je voudrais vous rappelez que nous sommes à une semaine du début du procès de Charlie Hebdo, plus de 5 ans après les attentats. Nous allons beaucoup en parler dans les jours qui viennent. Mais c'est pour moi l'occasion de vous parler d'un nouveau podcast Europe 1 Studio, disponible dès aujourd'hui. Ça s'appelle Le son de vie, le son en deux mots. Un podcast sur la résilience, signé Sébastien Guyot. Vous y trouverez notamment les témoignages de Ségolène Vincent, avocate rescapée des attentats de Charlie Hebdo. Elle raconte ses sons, ces bruits qui la hantent encore, mais aussi la musique qui l'a aidé. Extrait.
La musique revient à partir du moment où on m'offre une platine vinyle pour mon anniversaire. Alors là, depuis, elle n'arrête pas de tourner la platine.
Nous prendrons le temps de vivre.
C'est un vinyle que j'ai récupéré, je l'ai en deux exemplaires, même celui-là, 33 tours. Le temps de vivre, j'aime beaucoup Georges Moustaki, et cette chanson particulièrement. Je décide, j'ai toujours décidé de prendre le temps de vivre, et d'autant plus que je vieillis. Là. J'aime vivre, mais exister m'importe peu. Je ne sais pas si on saisit bien la nuance, mais je peux passer la vie assise sur un rocher à regarder la mer, sans rien faire d'autre, en étant tout à fait inutile à la société. Et ça me va très bien. Je n'ai pas besoin de grosses joies, de gros bonheur. Voilà. Juste vivre. Je suis en vie, donc je vis.
Ségolène Vincent, rescapée des attentats de Charlie Hebdo, La résilience dans le son de vie, podcast Europe 1 Studio, signé Sébastien Guyot. Premier épisode disponible aujourd'hui, 7h53. À suivre, pas de masque gratuit dans les collèges et les lycées, les limites de l'État-providence. C'est l'édito politique de Nicolas Bétou avant la météo de Laurent Cabrol et le journal de François Geffrier. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h55, bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
Votre édito politique. Le gouvernement a tranché hier et devrait officialiser sa décision en Conseil des ministres ce matin. Le masque ne sera pas distribué gratuitement aux élèves de plus de 11 ans.
Et oui, et de la part du gouvernement, je trouve que c'est assez courageux.
Parce que la pression est forte et d'ailleurs elle continue à monter.
De partout en effet, de quelque côté qu'on se tourne, gauche, droite, y compris dans la majorité En Marche, on trouve des défenseurs de la gratuité à l'école. Et je ne suis pas certain que le gouvernement pourra tenir sa position. Bon, pour l'instant, il rappelle que des dizaines de millions de masques ont été distribués sous conditions de ressources. Emmanuel Macron a lui-même expliqué que ça relevait des dépenses à caractère social. Et puis, beaucoup de communes ont fourni à tous leurs habitants des masques en tissu. Mais peu importe, on est déjà au-delà du problème de l'école, puisque la demande de gratuité pour tous les Français existe déjà. Elle vient de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, de la CGT aussi. Et plus l'obligation de porter le masque s'étendra sur le territoire, plus cette pression montera.
Vous avez l'air de le regretter, Nicolas. Je peux vous poser la question directement. Vous êtes contre la gratuité des masques?
Je vois que vous voulez me faire passer pour un ultra-libéral sans cœur.
Oui, au moins, oui.
Voilà, bon, je vais vous répondre. D'abord, il faut se rendre à l'évidence. C'est très difficile, de but en blanc, de dire « chacun doit assumer et payer de porter un masque » que le gouvernement nous impose. C'est très difficile, et ça l'est encore plus pour un homme politique, de dire que chacun doit payer pour protéger sa vie. Et c'est bien le problème avec ce mystérieux coronavirus. Pour se prémunir contre l'inconnu et se protéger politiquement, le gouvernement a beaucoup joué sur la peur. Et cette peur, eh bien, elle débouche mécaniquement sur toujours plus de contraintes, d'obligations, d'interdits. Et chaque citoyen à qui on dit « vous devrez faire ci, et puis ça, et puis encore ceci, et puis encore cela », chacun peut légitimement répondre « ok, mais aidez-moi ou indemnisez-moi pour ça ».
Oui, d'où la demande de gratuité pour les écoles.
Exactement, une demande quasi irrépressible. La preuve, beaucoup d'élus des départements et des régions l'ont déjà promis, la gratuité, ils n'ont pas résisté.
Des régions, des collectivités,
voilà.
Effectivement.
En fait, la vraie question ne devrait pas être « est-ce que vous êtes pour ou contre la gratuité des masques ?» mais comment est-ce que la France, pays déjà surendetté, dont les dépenses sociales sont les plus importantes de tous les pays développés, comment est-ce que la France peut se demander encore plus d'État nounou, d'aide sociale, d'État-providence, sans jamais s'inquiéter de savoir comment on paiera? Comment est-ce qu'elle peut encore croire, comme l'avait dit dans un autre contexte François Hollande, que c'est pas cher, c'est l'État qui paye? Comment est-ce qu'elle n'a toujours pas compris que ce virus-là aussi pouvait être mortel pour un modèle de société?
Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito, c'est tous les matins dans Europe Matin, juste avant 8h.
Laurent Cabrol
avec nous, c'est l'heure de la météo.
Bah écoutez, on va parler d'un temps qui, dans l'ensemble, donnera l'impression à la fin de la journée d'avoir passé un beau mercredi, puisqu'il y aura certes beaucoup de nuages, il y a certes beaucoup de vent sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord, il y a certes trois fois de quelques pluies sur la Dordogne et sur le Lot. Mais dans l'ensemble, ce sera agréable parce que les températures seront très élevées, 36 degrés dans le bassin méditerranéen, 34 par exemple à Marseille, où il n'est pas tomber une goutte d'eau depuis pratiquement le début de l'été et c'est vraiment très 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 spectaculaire. 32 à Lyon, 30 à Toulouse, 27 à Dijon, 26 à Paris, 25 à Reims et 23 degrés à Rouen. C'est une journée donc en dépit des apparences qui s'annonce sympa. Demain jeudi, les nuages seront plus nombreux avec plus d'éclaircies et peut-être quelques pluies en Bretagne. Mais la journée de demain, hormis la Bretagne où nous aurons peut-être quelques pluies partout ailleurs, ce sera disons assez sympa. Et puis vendredi, là un passage pluvieux conséquent va toucher une bonne partie de la France, y compris le bassin méditerranéen, qui va recevoir sa petite dose de pluie à la fois vendredi et samedi. Et donc nous allons avoir sur pratiquement toute la France le passage d'une perturbation durant ces journées de vendredi et samedi, avec à la clé une baisse des températures. Et là, ça, c'est moins sympa. Voilà.
Merci beaucoup, mon cher Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Installez-vous confortablement à l'écoute d'Europe 1. On écoute le monde changer. 8h sur Europe 1.
Quand il y a un risque majeur de santé publique, c'est à l'État de supporter ce coût et ce n'est pas aux familles de se protéger en fonction de leurs moyens financiers.
Qui va payer pour les masques ? Les familles ? Les départements ? Les régions ? Réponse, ça dépend de votre lieu de résidence. Drôle d'égalité républicaine. A-t-on fabriqué les 10 000 respirateurs promis au cœur de la crise par le gouvernement ? Enquête Europe 1 à suivre. Dans ce journal, Pôle emploi qui embauche pour faire face à la vague de chômeurs, les informations du service économie. Barcelone qui perd son Messi. Le dieu vivant du foot a fait parvenir un fax à son employeur pour lui dire adios. Et Netflix qui perd de sa matière première, les séries. Les nouvelles saisons de deux d'entre elles sont annulées. Le tournage était trop cher.
Juste après ce journal, Sonia Mabrouk reçoit le président de la commission des finances de l'Assemblée, le député Les Républicains Éric Woerth. À 8h30, on prend soin de vous, votre santé avec le docteur Jimmy Mohamed, notre planète avec Fanny Agostini, avant de retrouver le meilleur de Canteloup à 9h moins le quart. Très bon réveil à toutes et à tous. Avec Europe Matin, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'État et le contribuable français n'ont pas vocation à payer des masques pour tout le monde, tout le temps. Déclaration d'Emmanuel Macron il y a un mois. Il n'a pas changé d'avis malgré l'obligation pour les élèves d'être masqués dès 11 ans et malgré la polémique sur le coût de cette fourniture pour les familles.
Des régions, des départements annoncent les uns après les autres qu'ils offriront des masques aux collégiens ou aux lycéens. Interrogés par Claudia Bertram, les présidents de ces collectivités assument de se démarquer de l'exécutif.
Devant le désengagement de l'État, nous agissons et nous protégeons nos populations.
À la tête de l'Occitanie, Carole Delga va distribuer 2 masques en tissu à chacun des 280 000 lycéens de la région. Elle regrette de devoir se substituer à l'État.
Quand il y a un risque majeur de santé publique, c'est à l'État de supporter ce coût et ce n'est pas aux familles de se protéger en fonction de leurs moyens financiers. C'est une profonde inégalité.
Xavier Bertrand distribuera aussi dans les Hauts-de-France, Valérie Pécresse en Île-de-France et Laurent Wauquiez devrait faire de même en Auvergne-Rhône-Alpes. À ce stade, près de la moitié des départements songent également à fournir des masques aux collégiens. Mais le président du conseil départemental de l'Ain, Jean Deguerry, espère bien un dédommagement de l'État.
Il faut que l'État prenne ses responsabilités et accompagne financièrement les départements comme les autres collectivités. Mais il ne faut pas non plus que nous soyons que les payeurs, ou si vous me permettez, les dindons de la farce à chaque fois.
Des élus locaux qui avaient déjà été en première ligne pour distribuer des masques au début de la crise. Un conseiller ministériel s'agace, ils veulent à nouveau surfer sur la vague et être généreux avec l'argent de l'État.
Et cette rentrée scolaire se fera-t-elle avec tous les professeurs ? Ceux qui ont des facteurs de risque face au coronavirus pourront rester chez eux, certificat médical à l'appui.
Patrick Dominget, atteint d'asthme et d'obésité et qui enseigne l'histoire géo dans un lycée du Havre, n'y a pas remis les pieds depuis le début du confinement.
Je suis très très inquiet, malgré les protections avancées, on parle de masque FFP2 pour nous. Enfin, pour notre catégorie, moi je suis très très inquiet. C'est un établissement des années 60, avec des couloirs très étroits, beaucoup d'élèves, on est plein comme un œuf, et des fenêtres qui ne peuvent pas s'ouvrir parce qu'elles sont tellement mal fixées que donc elles ont été vissées. Dans notre cas, le télétravail est possible, on l'a montré au printemps, et donc moi je ne tiens pas à être mis en arrêt maladie, je tiens simplement à pouvoir exercer en distanciel si je le souhaite, tout simplement.
Patrick Dominget au micro européen de Damien Mestre. Rideau dès 23h tous les soirs désormais pour les bars et restaurants. restaurant des Bouches-du-Rhône. Le masque devient obligatoire partout dans la ville de Marseille dès ce soir à la même heure, 23h.
On se souvient au cœur du confinement de cette mobilisation des industriels pour produire des masques, mais aussi des respirateurs artificiels.
Hier, ici même, sur Europe 1, cette interrogation du patron des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, Philippe Juvin.
Le président de la République, le 10 ou 11 avril, avait dit « Nous commandons 10 000 respirateurs. Moi, il ne me déplairait pas de savoir où ils sont. »
Réponse avec votre enquête, Aurélien Fleureau. Les 10 000 respirateurs ont été fabriqués, promesse tenue.
Pour fabriquer en à peine 2 mois l'équivalent de 3 ans de production, un consortium a été créé autour d'Air Liquide, seul fabricant français de respirateurs. Mission accomplie, 9984 appareils sont sortis des usines. 9400 ont à ce stade été achetés, nous précise la Direction générale de la Santé. 2 modèles différents, dont l'Osiris, peut-être pas le plus performant, admet Éric Maury, président de la Société de réanimation de langue française, mais il a été très utile, notamment dans le cadre des unités éphémères de réanimation qu'il a fallu équiper en urgence au printemps dernier.
On s'est dit qu'on allait être en déficit de respirateurs et le seul respirateur qui était possible de construire rapidement, c'était cet Osiris 3 là, qui est construit par Air Liquide. Si on se retrouve confronté à une deuxième vague, à une grippe qui peut se surajouter au Covid ou à une épidémie dans les années qui viennent, mais on sera bien content d'avoir un stock de respirateurs de secours qui sera disponible.
Désormais, la tension mondiale sur l'approvisionnement en respirateurs a baissé. Un stock a pu être constitué en France et certains projets comme celui de fabriquer 5000 appareils supplémentaires menés par le CEA de Saclay et le CHU de Nantes ont même été stoppés parce qu'il n'y a pas eu de pénurie.
Enquête Europe 1 d'Aurélien Fleureau. Quelle sera l'ampleur totale de la vague de chômage? Un nouvel indicateur tout à l'heure, ce sera à midi, les chiffres de Pôle emploi pour le mois de juillet.
Pôle emploi qui se prépare à un afflux de chômeurs, Carole Ferry. Et d'ailleurs, plusieurs milliers de recrutements sont prévus dans les mois qui viennent.
L'embauche de nouveaux conseillers à Pôle emploi, cela fait partie du plan de relance. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, l'avait promis cet été pour assurer, selon elle, un accompagnement de qualité aux nouveaux chômeurs attendus à la rentrée. Les modalités de ces renforts sont d'ores et déjà prévues dans un document interne que nous avons pu nous procurer. Les conseillers seront embauchés essentiellement en CDD. Les règles au sein de Pôle emploi ont même été spécifiquement modifiées. Normalement, il existe un plafond de CDD autorisé. Eh bien, il a été supprimé le temps de la crise. Nous avons aussi le tableau avec la répartition par région des 1000 premiers CDD recrutés. L'Île-de-France sera la mieux servie. 171 personnes en plus, 112 pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, 99 pour l'Occitanie. Une première vague de recrutement est prévue dès maintenant. En fonction de l'évolution de la courbe du chômage, 2 nouvelles vagues d'embauche pourraient avoir lieu à la fin de l'année et début 2021.
8h06 sur Europe 1. Aux États-Unis, la suite de la convention du Parti républicain et une prise de parole qui contraste avec ce qu'on a entendu depuis hier.
Oui, c'est la First Lady, Melania Trump, qui exprime de l'empathie pour les victimes du Covid-19. D'ailleurs, elle ne dit pas virus chinois comme son mari.
My deepest sympathy goes out to everyone.
J'envoie mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu un être cher et mes prières à ceux qui sont malades et qui souffrent.
En Biélorussie, la répression semble s'être calmée, mais l'opposition continue de s'organiser, notamment depuis l'étranger.
Oui, des ONG biélorusses ont une vraie base arrière en Lituanie, à Vilnius. C'est là que se trouve l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini.
Au-delà du travail de documentation sur les tortures et la brutalité des autorités, les membres de cette ONG revendiquent un important appui logistique aux opposants en Biélorussie. Olga en est la responsable. Elle affirme que cet appui peut aller très loin jusqu'à l'exfiltration du pays.
C'est une logistique sur 2 semaines. Le temps d'expliquer à qui ils doivent écrire, qui va les contacter, vers quel pays ils doivent aller. Il faut aussi prendre en charge les personnes à qui on a saisi les passeports et toutes ces choses-là.
La population biélorusse est peu habituée à manifester, encore moins à se servir d'Internet pour mobiliser les militants. Slava se charge de l'appui technique.
Le souci principal du moment, c'est de leur expliquer comment utiliser un VPN. Je leur montre comment, avec cet outil, ils peuvent utiliser des messageries cryptées interdites en Biélorussie. Ça leur permet aussi de communiquer avec l'extérieur du pays.
Et permettre ainsi aux militants les plus chevronnés de témoigner en temps réel, une révolution technologique pour un pays jusque-là si fermé. Vilnius, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Vous restez avec nous. Dans un instant, le génie du football a un nom.
Messi, le bien nommé, veut quitter Barcelone. Eh oui, goal, goal, goal. Eh oui, des buts, il en a marqué 645 au Barça. Les supporters ne s'en remettront pas.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, 8h10, la suite du journal François Geffrier.
C'est un cataclysme dans une ville où l'on rêvait qu'il soit éternel. Messi veut quitter Barcelone après 4 Ligues des Champions, 10 championnats d'Espagne.
Et une correction, c'était il y a 10 jours face au Bayern Munich, 8-2. Bon, dans la capitale catalane, on ne supporte pas l'idée du départ de Lionel Messi. Henri de Laguerry.
La nouvelle tombe en début de soirée. Déjà à la radio, on repasse les meilleurs buts du génie argentin arrivé à Barcelone à l'âge de 13 ans avant d'évoquer ce qui représente ici un véritable tremblement de terre.
C'est le jour le plus triste de l'histoire du Barça.
Battu par le Real en Liga, humilié 8-2 par le Bayern en Europe, Messi jette l'éponge et plonge dans un état de sidération les supporters, dont Jordi Sant, responsable de l'animation des tribunes au Camp Nou.
Je suis sous le choc parce que je n'aurais jamais pu imaginer que le meilleur joueur du monde communique par un simple le fax son envie de quitter le club.
Sous contrat jusqu'en juin prochain, Messi dispose d'une clause qui lui permet de partir à chaque fin de saison. Il aurait dû l'activer avant le 1er juin, mais la crise du Covid rebat les cartes selon lui. Le club ne le voit pas de cette manière, en tout cas pour Angel. Si Messi veut partir, c'est que l'équipe n'est plus au niveau.
Il n'est plus heureux. Il a un certain âge et il voit que ça devient compliqué de remporter la Ligue des Champions. Et il s'en va pour la gagner ailleurs. Mais cette direction est nulle, la pire de l'histoire du Barça.
Et justement, cette nuit, des supporters ont crié leur colère au pied du Camp Nou contre une direction incapable de convaincre Messi de terminer sa carrière à Barcelone.
Quant à la colère de certains supporters parisiens dimanche soir, elle leur a valu jusqu'à 10 mois de prison ferme, peine prononcée hier lors des premières comparutions immédiates pour les violences autour des Champs-Élysées après la finale perdue.
Dans le football, en Ligue 1, on reporte des matchs pour cause de virus. Eh bien, sur Netflix, ce sont des séries qui sont annulées.
Oui, Clément Le Saffre, certains tournages étaient devenus trop compliqués et le calendrier impossible à tenir.
Si tu entends ce message, s'il te plaît, tu peux venir nous chercher.
Personne ne viendra chercher les ados perdus dans un monde vidé de ses habitants de The Society. Personne ne viendra non plus aider les étudiants dotés de super-pouvoirs de la série I'm Not Okay With This. Deux séries destinées à un public jeune et deux séries sacrifiées par Netflix. La raison, entre la gestion de la distanciation sociale et le matériel de protection pour les équipes, le tournage adapté au coronavirus aurait fait exploser le budget des deux séries. Elles avaient pourtant reçu un bon accueil de la part du public et preuve que Netflix comptait sur elles pour l'avenir. Elles étaient renouvelées pour une saison 2 pour l'une et en passe de l'être pour l'autre. Si Netflix fait ce choix, c'est aussi parce qu'elle peut se le permettre. Rien qu'en France, la plateforme propose plus de 1000 séries. Elle juge que les fans des séries annulées y trouveront leur bonheur. Un luxe que ne peuvent pas se permettre les studios de cinéma, bien obligés, eux, de composer avec le surcoût des protocoles sanitaires et le report des films en cascade.
Clément Le Saffre et au cinéma, le blockbuster que les salles ont attendu tout l'été sort enfin aujourd'hui, Tenet de Christopher Nolan.
Merci beaucoup François Geffrier. C'était le journal de 8h à 8h13. Saluons Sonia Mabrouk qui nous a rejoint. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Est-ce que vous êtes pour la gratuité des masques? Mais en même temps, vous dites ça suffit, l'État nounou. Alors, qui doit vraiment supporter le coût des masques et qui paye toujours à la fin? Le contribuable. On en parle avec le président de la commission des finances à l'Assemblée, Éric Woerth, notre invité.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1. L'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est Éric Woerth, député Les Républicains, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale.
Bienvenue à vous et bonjour Éric Woerth.
Oui, bonjour.
Qui doit payer pour les masques?
Écoutez, je pense que chaque Français doit payer pour sa propre protection à partir du moment où c'est une décision collective. Je crois qu'à un moment donné, on peut prendre une partie de son revenu pour payer sa protection.
C'est pas très populaire de le dire. Hein.
Non, mais j'essaie de ne pas faire dans la démagogie à outrance. Je pense que les personnes qui ne peuvent pas le faire doivent être évidemment aidées. C'est vrai pour des personnes qui sont à la SCMU ou des personnes qui sont au RSA ou éventuellement les centres communaux d'action sociale peuvent aider aussi. On a suffisamment de filets de sécurité en France pour que chacun soit couvert. En tout cas, moi j'estime qu'il serait normal que je participe au financement de la protection de mes propres enfants s'ils étaient en âge au collège ou au lycée. C'est vrai également pour les personnes dans la rue, enfin dans la vie quotidienne. C'est très différent en entreprise. Je pense qu'en entreprise, c'est évidemment à l'entreprise de fournir à chacun, et ça c'est dans un cadre beaucoup plus général, les moyens de se protéger.
Bien sûr, mais de manière générale, il faut dire la vérité, à la fin, c'est qui paye toujours ?
c'est toujours le contribuable au fond, et maintenant c'est plus tellement le contribuable, c'est sur les marchés financiers. Vous savez, on a toujours extrêmement peur de sa propre indépendance, lorsque de perdre son indépendance, lorsque l'État commence à dépenser le moindre euro aujourd'hui, il l'emprunte, et donc c'était évidemment une très mauvaise idée. La dette française, comme la dette des entreprises, est extrêmement inquiétante.
On va en parler bien sûr, mais tout d'abord, Éric Woerth, quel signal selon vous a donné l'exécutif en repoussant d'une semaine l'annonce du plan de relance ?
C'est jamais très bien de reporter ou de retarder. Il y a toujours l'idée que on n'est pas maître des horloges. Lorsque le président a été élu, il a dit je suis le maître des horloges. C'est-à-dire qu'on peut le comprendre d'ailleurs. Le président de la Ve République, il est là pour essayer d'organiser le temps et le calendrier et ne pas se le faire imposer. Là, on retarde beaucoup, on reporte. Et c'est vrai pour beaucoup de réformes. Alors, on n'est pas une semaine près.
Oui, et puis le gouvernement se défend de toute impréparation, voilà. Affirme que tout est prêt pour cette urgence économique.
La vérité est qu'on savait qu'il y aurait une rentrée compliquée sur le plan du virus et sur le plan sanitaire. Donc, on peut évidemment classer les priorités. Mais je pense que ce n'est jamais une très bonne idée que de reporter. On joue à cache-cache avec le plan de relance. D'une certaine façon. Ça fait des mois qu'on en parle. Et ça fait des mois que l'opposition, les Républicains, ont émis un plan de relance dès le mois de mai. Un certain nombre de trucs ont été repris à l'intérieur par le gouvernement.
Tant mieux, c'est vous tant le mieux. Saluez,
d'autres
hein,
ont été
quand les
oubliés.
Bonnes idées
oui,
sont partagées,
toujours,
c'est toujours positif.
Je l'ai toujours dit, d'autres n'ont pas été votées par la majorité lors des projets de loi de finances rectificatives. Elles le seront plus tard. Donc je trouve qu'on a toujours un temps de retard, en vérité.
Oui, mais la vraie question, Éric Woerth, c'est de savoir si ce plan sera suffisant, conséquent, surtout pour contrer la récession.
Vous savez, les plans en France, on adore. On va même recréer un commissariat au plan, si j'ai bien compris. Donc on adore. C'est formidable ce qu'on est capable de prévoir ou d'annoncer. C'est plus compliqué dans la réalisation. Très souvent, d'ailleurs, un plan est abandonné à moitié, aux trois quarts, ou assez peu mené. Donc il faut regarder tout ce qui se passe sur le plan budgétaire, les plans militaires, de toute nature, toutes
mais
les
attendez,
prévisions.
Mais attendez, déjà, beaucoup de
toutes
mesures
sont souvent
Éric
abandonnées. Woerth,
déjà, beaucoup de mesures sont disponibles, je pense. Attendez, je pense pour les entreprises, à la prime à l'embauche, avec les 4000 euros, tout ça est déjà en marche.
Oui, mais c'est parce que ce n'est pas de la responsabilité du Parlement, c'est de la responsabilité du gouvernement. Et c'est une mesure ponctuelle, ce n'est pas une mesure planifiée. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir si vous annoncez un truc pour lundi, en général, vous le faites. C'est plus compliqué quand vous commencez à dire sur un an, deux ans, trois ans, à moyen terme, voilà, on va réorganiser notre pays, on va réorganiser structurellement. Et dans un plan de relance, il y a évidemment les mesures pour le très court terme, enfin ça, on les a prises comme tous les autres pays, pour tout vous dire. Mais aussi, le fait qu'une crise, ça suscite utilise. Bah c'est une opportunité,
comme on dit. Vous ne croyez pas en la vision à long terme du gouvernement ?
Je pense que ça, c'est d'abord la preuve qui compte. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement l'annonce de savoir ce qu'on fera pour le tourisme, pour l'industrie aéronautique, ou d'une certaine façon, comment on restructurera tel ou tel moment, comment on écologisera plus, comment on rendra plus écolo l'ensemble de nos politiques publiques. La vérité, c'est bien de le dire. Ce qui compte, c'est surtout de le faire. Je ne crois plus tellement au discours, pour tout vous dire, au discours politique.
C'est bien qu'un responsable politique.
Oui, je pense qu'on doit faire la preuve de ce qu'on fait et de ce qu'on est. Et honnêtement, dans ces temps extrêmement troublés, c'est quand même ça qu'attendent les peuples.
C'est important ce que vous dites et vous tenez les comptes, hein, si je puis dire aussi, à l'Assemblée nationale. Il y a la promesse qui est faite de ne pas augmenter les impôts pour combler les déficits. Vous y croyez ?
Je l'espère, mais il y a mille manières de dire qu'on ne les augmente pas et qu'on les augmente quand même. Il y a plein de façons de faire. Nous verrons bien. En tout cas, je note que le gouvernement prend cet engagement. Je pense qu'il a eu tort de baisser la taxe d'habitation. On aurait dû, plutôt que de baisser la taxe d'habitation ou supprimer la taxe d'habitation, je sais bien que c'est populaire. Mais
pour tous les Français
le
d'ici 2023, ceux qui vous entendent ce matin, ils disent mais qu'est-ce qui est arrivé
à Éric Woerth ? Oui, mais ils veulent en même temps plus de services publics à côté. Ils veulent plus de services publics. Donc le gouvernement, il est là pour régler et pour gérer les contradictions. Si c'était facile de gouverner, ça se saurait. Donc je pense que c'était une très mauvaise idée. Et c'était en plus une taxe d'habitation, c'était en plus le seul impôt qui reliait encore le contribuable aux services publics locaux. Et qui donnait aux maires, c'est héros de la République maintenant, pour le président de la République, mais qui donnait aux maires en réalité les moyens d'action à partir de ses propres finances.
Vous n'êtes pas favorable,
je note que les impôts de production, c'est-à-dire ceux qui embolisent au fond la production
baisse
française,
des impôts de production, ça sont des signaux à venir que vous approuvez, j'imagine.
Mais bien sûr, on le demande depuis 3 ans, ça fait 3 ans que la majorité nous dit que c'est une très mauvaise idée. Donc aujourd'hui, le gouvernement dit je vais faire 10 milliards d'euros sur les impôts de production, c'est une centaine de milliards d'euros. Bon, c'est très bien, mais ça aurait été très très bien bien de se donner des marges de manœuvre supplémentaires par rapport à des
CDIS. On ajoute aussi, pour être complet, Éric Woerth, qu'il y a la baisse de l'impôt sur les sociétés. Il y a aussi la baisse de l'impôt sur les sociétés à 25% d'ici 2022. Vous avez noté aussi la baisse des impôts de production.
J'y suis évidemment favorable à la baisse de l'impôt sur les sociétés. On sera toujours au-dessus du niveau européen et du niveau de l'OCDE, mais il faut le faire. En tout cas, la résolution de la crise ne passe pas, et de la crise financière ne passe pas par l'augmentation des impôts dans un pays qui est déjà surtaxé. Oui. Tout le monde le sait.
Bien sûr, une situation très difficile pour de nombreuses entreprises très endettées et qui doivent rembourser leurs prêts garantis par l'État. Il y a des taux attractifs qui sont en train d'être négociés avec les banques. Est-ce que ce sera suffisant pour aider les entreprises au mois de mai,
je disais au gouvernement que les entreprises allaient être surendettées en fin de parcours. Nous le savions. Et donc, il fallait absolument commencer à travailler, à avoir des prêts participatifs, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment de l'endettement, donner une lisibilité sur beaucoup d'années à des entreprises qui, si elles sont trop endettées, à un moment donné, leur banquier va couper le robinet. Donc on voit bien que ça va se passer comme ça. Donc c'est très important de le faire. Moi, je voudrais que le gouvernement soit très clair là-dessus. Il faut qu'il y ait...
Bruno Le Maire dit « Je suis en train de négocier ces taux pour qu'ils soient les plus attractifs possibles. »
Enfin, en Allemagne, c'est fait. Ça devrait être fait. Il faut absolument aller plus vite pour assurer l'appareil productif français. L'appareil productif français, c'est les salariés français, c'est les employés, c'est les familles, c'est le revenu, c'est le pouvoir d'achat des Français. On ne peut pas vivre sur une montagne de dettes.
Bon, si je vous entends depuis tout à l'heure, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin, ça ne va pas assez fort.
Non, ça ne va pas assez vite. Et le calendrier est pour le moins un peu contraint et un peu étonnant. Donc je crois que le gouvernement doit aujourd'hui être de plus en plus clair. Et j'espère qu'il le sera sur le sanitaire à la rentrée, parce que c'est la rentrée, c'est maintenant, c'est pas demain. Donc qu'il le sera sur la rentrée, qu'il rassurera les parents d'élèves, l'ensemble des instituteurs et des professeurs. Ouais. Et puis deuxième point, que les chefs d'entreprise et que les entreprises françaises seront exactement dans les 2 ou 3 ans qui viennent, comment les choses doivent se passer.
Parce qu'ils veulent la clarté, de la lisibilité. Eric Woerth, depuis tout à l'heure, le début de notre entretien, vous critiquez, vous dénoncez, mais on attend aussi toujours de votre côté le projet de la droite, mais à long terme, des prochaines années, et que votre candidat se déclare aussi.
Oui, ça c'est vrai, mais ça, vous savez, ça a toujours
d'après
été...
D'après votre oui, on dirait que vous l'attendez aussi.
Oui, moi j'attends aussi, parce que je pense que c'est bien de proposer. On a proposé un plan de relance très précis, bien avant le gouvernement, donc on n'est pas en mal de propositions. On propose, regardez, il y a beaucoup de violence qui s'installe partout. Il y a une crise d'autorité en France qui est fondamentale. Il faut des propositions.
Certains disent qu'il y a un ensauvagement d'une partie de la population, l'a dit le ministre de l'Intérieur.
Bien sûr, il y a des mesures il se passe des choses insupportables pour les Français dans leur vie quotidienne. Il faut que l'État reprenne la main sur l'autorité. Les Républicains font beaucoup de propositions dans ce domaine-là, notamment par exemple des propositions qui pourraient être celles d'empêcher toutes ces personnes qui vont casser, qui transforment la rue en un champ de bataille, ne devraient plus avoir accès à aucune aide sociale d'aucune nature.
Couper les aides sociales.
Mais bien sûr, d'aucune nature. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une solidarité. Qui les paye, les aides. C'est vous et moi. En même temps, la personne, elle en profite pour venir casser. Donc, il y a un moment donné, il faudrait arrêter de tergiverser sur ce sujet et être extrêmement clair. Ça a été tenté, ça n'a jamais été fait. Il faut le faire aujourd'hui. Voilà une idée. En tout cas, il faut aussi que la droite est évidemment une incarnation de sa propre.
Vous entendez la petite musique de certains, Eric Woerth. Si François Baroin arrive, si François Baroin se décide, il sera le candidat naturel. Est-ce qu'il y a vraiment un candidat naturel chez les Républicains?
Non, il n'y a aucun candidat naturel. D'ailleurs, il n'y a aucun candidat naturel à gauche en 2017. Donc, je pense qu'à un moment donné, c'est une décision personnelle. Donc, un tel ou un tel, il prend du temps.
François Baroin, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau. Oui. D'ailleurs, vous pourriez en être aussi.
Bien sûr, et d'autres.
Ah bon,
il y a plein de gens qui ont du talent, qui sont capables et qui ont de l'expérience, qui ont eu beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de responsabilités.
Mais à la fin, il en faudra un ou une.
Il faut le choisir.
En passant par la primaire, vous n'avez pas le choix.
Je crois que c'est pas mal, les primaires. Il faut juste les réorganiser. On fait un très mauvais diagnostic des primaires de la droite. Dernière, nous avons perdu l'élection présidentielle pour d'autres raisons.
Donc, on va conclure juste avec l'annonce du Premier ministre à l'instant, Jean Castex, qui précise, puisque vous nous le disiez tout à l'heure, il faut une date pour le plan de relance. Ce sera présenté le 3 septembre, donc il faut attendre encore quelques jours pour cette annonce. Et les entreprises qui auront donc plus de lisibilité.
Le plan de relance, c'est une très bonne idée. Ce n'était pas la date qui était prévue. Moi, je ne veux pas faire de débat sur les dates à une semaine près. Ce qui compte, c'est la mise en œuvre de tout cela, la capacité de mettre en œuvre et la capacité de réduire la dépense publique en France. Il y a un moment donné, donné, on ne peut pas vivre uniquement sur de l'endettement. Quoi qu'il en coûte, c'est possible une semaine, c'est pas possible pendant longtemps.
Merci beaucoup Eric Woerth d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite une belle journée ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci Sonia Mabrouk, 8h26 sur Europe 1. Dans un instant, un nouveau journal avec Hélène Zélani et puis on prend soin de vous, de nous, dans Europe Matin. Votre santé, notre planète, Jimmy Mohamed et Fanny Agostini. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h29 sur Europe 1. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal à 8h30.
Ça va, je pense, nous faire un sacré manque à gagner. Sur une ville comme Marseille, où est-ce que la saison estivale s'étend jusqu'à fin septembre, ça risque d'être compliqué.
L'amertume des patrons de bars et de restaurants marseillais qui vont devoir fermer à 23h dès ce soir. Décision qui vaut d'ailleurs pour tout le département des Bouches-du-Rhône. La recrudescence des cas inquiète à quelques jours de la rentrée scolaire, surtout quand on regarde l'exemple de La Réunion, 8 jours après le retour en classe des élèves déjà reconfinés. La suite de la convention républicaine, Mélania Trump a pris la parole pour vanter les mérites de son mari, un président qui fait campagne avec les moyens de la Maison-Blanche. Et puis la longue aventure de Messi au Barça, c'est sans doute fini. Après le cuisant échec en Ligue des Champions, l'Argentin a décidé de quitter son club.
Juste après ce journal, la météo de Laurent Cabrol. Le masque à l'école, intéressons-nous à la circulation du coronavirus chez les enfants. Avec le docteur Jimmy Mohamed, votre santé, notre planète, avec Fanny Agostini à 8h40. Avant de retrouver le meilleur de Nicolas Canteloup. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Dans tous les quartiers de Marseille, le masque devient donc obligatoire. Mesure prise par le préfet à cause des mauvais chiffres du Covid. Mais ce n'est pas tout. Les bars et les restaurants devront désormais fermer à 23h.
À Marseille, mais aussi dans tout le département des Bouches-du-Rhône. Et cela dès ce soir. Décision incompréhensible pour les professionnels alors que la saison touristique n'est pas terminée, Nathalie Chevance.
23h hier soir sur le Vieux-Port, les terrasses sont encore bondées, 26 degrés, mais c'est la douche froide pour ce patron de bar qui ne comprend pas l'intérêt sanitaire de devoir à l'avenir fermer boutique.
C'est un scandale, que ça ne sert à rien de fermer 23h ou 2h du matin, je ne vois pas la différence. Je ne vois pas, je ne comprends pas. Il faudrait mieux de fermer les plages, ils sont tous les uns sur les autres, plutôt que de fermer les bars et les restaurants et nous empêcher de travailler. Grosse colère, ouais.
Et pourtant, la fermeture aurait pu intervenir encore plus tôt, dès 20h. Pas de quoi remonter le moral de Sofiane, restaurateur, qui attend de nouvelles aides de l'État.
Ça va, je pense, nous faire un sacré manque à gagner. Sur une ville comme Marseille, où est-ce que la saison estivale s'étend jusqu'à fin septembre, ça risque d'être compliqué. À un moment donné, il va bien falloir aller chercher l'argent quelque part.
Quant à la jeunesse marseillaise, pas totalement familiarisée avec le masque, elle prévoit déjà des solutions alternatives.
Mes amis, là, au lieu de venir là avec elles ce soir, je les aurais invitées chez moi et on aurait quand même bu un coup ensemble. C'est juste qu'on se retrouve ailleurs. Donc finalement, je sais pas si ça serait quelque chose. C'est quand même un peu moins dangereux d'être chez nous plutôt que dans un bar. On va pas inviter des gens qui sont malades, alors voilà. Qu'au restaurant, on sait pas si les gens sont malades.
On s'adaptera.
Et il le faudra jusqu'au 30 septembre, sachant que pour l'instant, les rassemblements de plus de 10 personnes restent autorisés. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Pas de distribution gratuite de masques pour les collégiens et lycéens. Le gouvernement a tranché, une décision critiquée par l'opposition, mais aussi au sein de la majorité. Plusieurs collectivités vont prendre le relais pour offrir des masques en tissu réutilisables. C'est la rentrée pour le gouvernement, Conseil des ministres ce matin, conférence de presse de Jean-Michel Blanquer cet après-midi et ce matin, chez nos confrères de France Inter, le Premier ministre Jean Castex appelle à l'esprit de responsabilité sur le port du masque. Il annonce aussi le plan de relance de l'économie pour le 3 septembre prochain.
La rentrée dans l'Hexagone, c'est le 1er septembre, mais sur l'île de La Réunion, voilà déjà 8 jours que les élèves sont retournés à l'école.
Oui, et c'est plutôt inquiétant. Il a déjà fallu fermer des classes après des contaminations et plusieurs centaines d'élèves ont dû se reconfiné. Théo Manval.
En une semaine, les établissements scolaires de La Réunion ont enregistré une trentaine de cas de coronavirus et dû refermer 27 classes de la maternelle au lycée. 675 élèves et une centaine d'enseignants ont été renvoyés chez eux en attendant de se faire tester. Car comme en métropole, dans une semaine, le nouveau protocole sanitaire sur l'île a mis fin à l'interdiction du brassage entre groupes d'élèves. Les classes peuvent désormais se croiser dans les couloirs ou à la cantine. Et résultat, dans un lycée, ce sont 6 classes entières qui ont été renvoyées à la maison, suspectées d'avoir croisé un seul élève positif. Situation qui inquiète Jérôme Mottet, vice-président du syndicat SNALC à La Réunion.
Malheureusement, avec des cantines qui accueillent plus de 500 élèves et parfois sans distanciation, sans masque, quand il y a des jeunes, la situation va se dégrader si on ne fait rien.
Le rectorat assure garder les choses sous contrôle. 95% des écoles restent ouvertes, rappelle la rectrice Chantal Manès-Bonisseau.
Nous sommes plus prudents parce que c'est la rentrée et nous avons tendance à recommander l'isolement de peut-être un nombre d'élèves un peu supérieur à ce que nous recommande strictement l'ARS.
Mais ces chiffres chiffres donnent du grain à moudre au syndicat qui, à La Réunion comme en métropole, appelle Jean-Michel Blanquer à interdire à nouveau le brassage dans ses annonces cet après-midi.
Théo Manval, sachez aussi que le groupe Costa Croisière testera tous ses passagers avant l'embarquement. L'activité reprend pour l'instant uniquement au départ des ports italiens le 6 septembre prochain. Ce règlement de compte à Dijon, hier soir, Info Europe 1, un homme de 34 ans a été tué par balle au volant de sa voiture. Son passager légèrement blessé, la victime était connue de la police.
Aux États-Unis, la convention républicaine s'est poursuivie la nuit dernière avec notamment la prise de parole de la première dame, Melania Trump.
Accrochée à ses deux prompteurs, elle a bien sûr vanté les mérites de son mari, promettant qu'il ferait tout son possible pour venir à bout de la pandémie qui a fait près de 180 000 morts dans le pays. Xavier Yvon, vous suivez cette convention pour Europe 1. Ce qu'on retient également, c'est un mélange des genres très critiqué outre-Atlantique.
Pour gagner, on le sait, Donald Trump est prêt à tout et notamment à utiliser les moyens de la présidence pour faire sa publicité. En théorie, c'est interdit par une loi fédérale qui exige la séparation entre les activités de gouvernement et les campagnes politiques. Mais hier, Donald Trump a joué la transgression. On l'a d'abord vu accorder sa grâce présidentielle à un ancien voleur de banque.
A full pardon.
Une scène filmée à la Maison Blanche avec signature très sonore de l'acte.
Ok.
Plus tard, revoilà Donald Trump, encore à la Maison Blanche, pour cette fois une cérémonie de naturalisation de nouveaux citoyens américains. Puis c'est son chef de la diplomatie qui a fait dans le mélange des genres.
I'm Mike Pompeo. I'm speaking to you from beautiful Jerusalem.
En visite officielle en Israël, Mike Pompeo en a profité pour enregistrer un message vidéo avec la vieille ville de Jérusalem en toile de fond, clin d'œil évident à l'électorat évangélique. Les démocrates l'accusent de violer la loi et veulent une enquête. Enfin, le clou de la soirée, Melania Trump, la First Lady.
Good evening.
Elle a délivré son discours depuis un jardin de la Maison Blanche, encore sur le fond. Ses propos contrastaient avec le ton général de la convention. Elle a refusé d'attaquer les adversaires démocrates de son mari et elle est la seule à avoir montré de l'empathie pour les victimes du coronavirus. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Les États-Unis où la famille de Jacob Blake appelle au calme. L'homme grièvement blessé par des policiers à Kenosha dans le Wisconsin va probablement rester paralysé à vie.
Il n'y a plus de polio sur le continent africain. C'est une nouvelle officiellement annoncée par l'Organisation mondiale de la santé.
Oui, parce que cela fait maintenant 4 ans qu'il n'y a eu aucun cas déclaré et c'est le fruit d'une lutte de plus de 30 ans contre cette maladie qui touche particulièrement les enfants. Jean-Jacques Herry.
Longtemps, l'Afrique a vu ses enfants souffrir. Le virus de la polio, très contagieux, y touchait en majorité les plus jeunes. Conséquence, il y a encore quelques décennies, 200 à 300 000 enfants paralysés chaque année et des milliers de morts. Car entre manque de moyens et de volonté politique, la vaccination était l'exception en Afrique, le continent restant ainsi le principal foyer épidémique. En 1988, enfin, les choses changent. L'OMS lance l'initiative mondiale d'éradication de la poliomyélite. 19 milliards de dollars sont injectés en 30 ans et les campagnes de vaccination deviennent massives. Aujourd'hui, le résultat est là, se réjouit le docteur Richard Miigo, coordonnateur vaccination pour l'OMS Afrique, qui reste néanmoins prudent.
Tant que le poliovirus sera encore en circulation dans certains coins du monde, aucun pays n'est à l'abri des cas d'importation. Donc, il est extrêmement important que les efforts de vaccination de routine puissent continuer.
Aujourd'hui, effectivement, seuls deux pays au monde, l'Afghanistan et le Pakistan, enregistrent de nouveaux cas de contamination. Ce n'est qu'en y améliorant sensiblement la couverture vaccinale que la polio pourrait peut-être un jour devenir la deuxième maladie totalement éradiquée après la variole en 1980.
Jean-Jacques Herry.
C'est un séisme dans le monde du football. Lionel Messi veut quitter le Barça. Le sextuple ballon d'or argentin ne digère pas la raclée infligée par le Bayern Munich il y a 10 jours.
Oui, il considère que son club n'est plus capable de gagner la Ligue des Champions. Un coup de tonnerre qui fait trembler les médias espagnols, Jérôme Lacroix.
Una bomba en el fútbol español.
La bomba, le mot à la une des médias espagnols pour qualifier la nouvelle. Les télés en fusion hier soir et ce matin. Y estalló la bomba. Et la bombe a explosé en première page de Marca, quotidien payant le plus lu du pays. La bomba Messi à la une du Mundo Deportivo, journal catalan, qui n'évoque aucun autre sujet en une. Plus cynique, AS, quotidien sportif madrilène. Adios por Burofax. Adieu par Burofax, un service de courrier instantané très utilisé en droit en Espagne. C'est par cette méthode froide que les avocats de Messi ont informé hier les services juridiques du Barça. Et pour la presse, le procédé est révélateur des tensions entre le joueur et le président du club et de la lutte juridique qui se profile. Guerra totale, titre d'ailleurs en première page, le quotidien Sport. Mais le visage de Messi, souvent grise mine, il est aussi à la une des journaux généralistes, El País, El Mundo. El Mundo d'évoquer d'ailleurs El Tridente, Mathieu Hélène. Impossible, trident d'attaquants, Messi, Neymar, Mbappé.
si d'aventure le PSG tentait d'enrôler la star.
Jérôme Lacroix avec son formidable accent espagnol. Et puis on reparle de la Ligue des Champions aujourd'hui, mais chez les dames, demi-finale entre Lyon et le PSG qui se joue à huis clos à Bilbao en Espagne. Le coup d'envoi, c'est à 20h.
Merci Hélène Zélani, c'était le journal de 8h30, il est 8h39.
La météo avec Cdiscount. Cet été, même en vacances, Cdiscount livre tout ce dont vous avez besoin partout où vous êtes. Profitez de votre été avec Cdiscount.
Laurent Cabrol, vous l'avez entendu, vient de pulvériser le plexiglas qui normalement assurait la sécurité sanitaire de ce studio. Laurent Cabrol.
C'est Jérôme qui a un gars. Vamos, Benton.
Laurent Cabrol, le temps aujourd'hui, mon cher Laurent.
Bon, ce sera une impression de beau temps pour nous tous, puisque certes, il y a beaucoup de nuages, mais il y aura aussi de très belles éclaircies. Et compte tenu des températures, si je vous dis qu'il va faire 36 degrés, ou par exemple à Nîmes, 35 à Marseille, à Toulouse 30, 28 à Cannes, 28 à Bordeaux et 26 à Paris, sont les températures qui permettent donc de supporter même le mauvais temps. Et ce n'est pas du mauvais temps que nous avons simplement des nuages, des petits parasols naturels, des corolles qui sont autour de nous et au-dessus de nous et qui nous permettent de supporter un peu cette chaleur. Donc tout va bien pour aujourd'hui. Demain, ce sera presque la même chose, avec un petit peu de pluie quand même sur la Bretagne. Et puis vendredi, samedi, alors là, nous entrons dans une période de pluie dans des régions qui n'en ont pas eu. Et c'est là, c'est ma bomba à moi, c'est que nous allons avoir à Marseille, par exemple, les premières gouttes depuis 2 mois. Il n'y a pas plu. Marseille, Toulon, Bastia, Ajaccio, pas de gouttes de pluie. Et là, on va les avoir donc vendredi, samedi. Dans le sud, il y aura enfin de la pluie. Et alors, vous rangez vos affaires pour rentrer à la maison. Et ou si vous êtes sur la route, eh bien, vous serez arrosé.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Belliard.
8h40 sur Europe 1, votre santé, ce nouveau rendez-vous dans la matinale, juste après le journal de 8h30. Toutes les réponses à vos questions de santé avec le médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à
tous. On est quand même en sécurité, même si Laurent fait tomber les plexiglas, tout va bien ?
On est là, on est bien.
Sous vos yeux en plus. Alors nouveau débat à propos du port du masque. Ils seront obligatoires dès 11 ans au collège et certains proposent de l'imposer dès l'école primaire, voire même à la maternelle. Est-ce qu'on connaît, Jimmy, le rôle des enfants dans le coronavirus ?
Mais faut croire que ce n'est pas clair. Souvenez-vous, on a commencé par dire que les enfants étaient très contaminants. C'est pour ça qu'on a fermé d'abord les écoles. Et puis on a dit, non, les enfants de moins de 10 ans, ils ne sont pas malades et pas vecteurs de la maladie. Puis on a découvert la maladie de Kawasaki. Et puis on a dit, non, finalement, les enfants vont bien. Et puis là, on se rend compte que peut-être la réouverture des écoles est associée à une nouvelle contamination. On ne sait pas vraiment. Du coup, j'ai regardé Santé publique France qui dit dans une note le 17 août dernier, car les choses vont peut-être changer, les enfants de moins de 18 ans représentent moins de 5% de l'ensemble des cas de Covid signalés dans l'Union européenne et au Royaume-Uni. Dans une autre source, les enfants sont relativement épargnés avec 5 à 10 000 fois moins de décès, 1000 fois moins de formes graves et 100 fois moins d'hospitalisations. La question, c'est celle de la contagion. Quand ils sont malades, des enfants propagent la même quantité de virus que les adultes. Ils sont donc contaminants, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Et on a la même interrogation quant aux asymptomatiques. Et une étude qui vient de paraître montre que chez 33 000 enfants asymptomatiques aux États-Unis qui ont été hospitalisés pour une cause médicale ou chirurgicale sans lien avec le coronavirus, eh bien on a simplement 250 enfants qui sont positifs, donc avec une séroprévalence qui va de 0 à 2%. Et si on s'intéresse aux enfants tombés malades en période scolaire, Santé publique rapporte que les enquêtes suggèrent qu'ils ont contracté le virus en dehors du cadre scolaire et que la transmission entre enfants à l'école reste rare. Vous voyez, c'est très confus et c'est compliqué de s'y retrouver.
Mais alors, à partir de quel âge est-ce qu'on impose le masque à l'école ?
Eh ben, je ne sais pas, je vais être très honnête, d'autant plus que je me suis déjà trompé en ce début de crise et je ne ferai pas de prédiction. Je ne suis pas pédiatre ni infectiologue. Tout ce que je sais, c'est que peut-être là, on est dans une dérive. Je suis un fervent défenseur du masque, mais là, j'ai l'impression que la maison brûle et qu'on regarde un peu ailleurs. Si on s'intéresse aux enfants de 3 ans, je vous rappelle qu'un enfant de 3 ans a besoin d'interaction, il a besoin de voir les autres sourire, les autres parler. Et peut-être que si on impose un masque dès la maternelle, eh bien on va peut-être avoir des troubles du langage. Et qu'est-ce qu'une école sans contact, puisqu'ils devront être loin des uns des autres, sans câlin, si jamais ils pleurent, et puis désormais qu'un masque qui empêche toute expression. Alors je ne sais pas s'il faut imposer des masques à un enfant de 3, 6 ans ou 11 ans. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que ce masque, on a du mal, nous, à supporter adultes, car c'est difficile d'en porter. Il va peut-être très difficile de le faire porter de nombreuses heures à des tout petits enfants.
Merci Jimmy Mohamed. Tous les matins, votre santé sur Europe 1. Il est 8h43. Notre planète, à présent avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Alors Fanny, vous vouliez nous parler ce matin du bilan de l'opération Mon été à la ferme, l'ouverture des portes des agriculteurs au grand public. Opération qui a connu un très grand succès.
Ah oui, même un succès énormissime, Mathieu, pour un concept pourtant lancé dans l'urgence par les chambres d'agriculture en réponse au Covid qui a propulsé une vague de touristes français sur l'Hexagone cet été. Et de nombreuses fermes ont saisi cette opportunité pour accueillir des vacanciers curieux d'apprendre sur le métier de paysan et de mettre eux-mêmes la main à la paille, à la fourche, à la grelinette, pour le petit clin d'œil permacole. Et ce sont quelques 900 fermes, quand même, à l'échelle nationale, qui accueillent aujourd'hui des familles et des groupes surfant sur la tendance de l'agritourisme. Avec, sur ces deux derniers mois, on peut le dire, une explosion de la fréquentation.
Et quelle retombée pour les agriculteurs ?
Je dirais que c'est quand même un rapport gagnant-gagnant avec des échanges enrichissants pour les deux parties. Cela donne surtout l'occasion aux paysans de parler de leurs pratiques en ouvrant grand leurs portes pour montrer en fait qu'ils n'ont rien à cacher dans un contexte où les stéréotypes sur la profession ont grandement besoin d'être déconstruits.
Alors un des bienfaits inattendus, c'est la transmission transgénérationnelle.
Oui, ça c'est inattendu. Il y a même un vrai créneau, ou plutôt une seconde vie, je dirais, pour les paysans à la retraite, encore présents sur les fermes et qui n'apprécient pas parfois la coupure avec la vie active. L'avantage, c'est qu'ils n'ont plus la pression de gérer les bêtes et de s'occuper des activités extrêmement prenantes sur l'exploitation. Et ils ressentent alors énormément de plaisir à accueillir les groupes pour faire les visites et surtout transmettre un savoir. Car bien souvent, le vécu et la connaissance de la terre de nos aïeux paysans vaut de l'or. Et par cette nouvelle forme de tourisme, eh bien je trouve que le bénéfice il est triple. Un, cela permet de transmettre au-delà du cercle familial les savoirs et savoir-faire. Deux, cela permet de resserrer les liens entre monde rural et urbain. Et trois, cela suscite des vocations pour les visiteurs qui viennent trouver dans ce style de séjour une opportunité de s'initier à l'un des plus beaux métiers, celui de travailler avec le vivant et d'en comprendre le fonctionnement.
Merci Fanny Agostini, tous les matins, Notre Planète, avec vous en direct de votre ferme de Haute-Loire, 8h46. Vous restez bien sûr Europe 1 à suivre le meilleur de Nicolas Canteloup, avant de retrouver bien sûr Philippe Vandel pour Culture Média. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Il est 8h48 sur Europe 1. La revue de presse, le meilleur de Nicolas Canteloup avec Julie, avant de le retrouver en direct à partir de lundi.
Dans l'affaire Fillon, l'ancienne chef du parquet national, qui s'appelle Éliane Houlette, a fait état de pression de sa hiérarchie pour accélérer la procédure judiciaire contre l'ancien candidat à la présidence. Bonjour François Fillon.
Oui, j'aime ma femme.
J'aime, il y avait longtemps.
Éliane Houlette, je t'aime Houlette.
Je t'aime Houlette. Alors, la justice aurait bel et bien accéléré votre mise en examen pendant la campagne présidentielle. Ça doit vous mettre en colère, ça, hein?
Non, écoutez, Madame Leclerc, j'aimerais simplement que la justice fasse son travail, voilà. Contrairement à Pénélope, qui, elle, ne l'a jamais fait son travail.
Et attention, là, vous êtes en train d'avouer que Pénélope...
Non, écoutez, je suis victime depuis tant de mois d'une cabale politique. On a été recherché, vous rendez compte où on en est, on a été recherché une vieille histoire où j'aurais détourné 650 000 euros volés, voilà, disons le mot, à l'État français pour payer ma femme à ne rien foutre. Hein. Et on a demandé instamment, et les preuves sont là, d'accélérer la procédure. Tout ça pour m'empêcher, Madame Leclerc, d'être président. Eh bien, je dis que cela est honteux. Voilà.
Oui, bah heureusement quand même. Hein. Si on n'avait pas accéléré la procédure, vous auriez été protégé par l'immunité présidentielle et après, l'affaire aurait été annulée grâce à la prescription. Enfin, vous connaissez.
Mais bien sûr, ça aurait été annulé grâce à la prescription. Bah oui. C'était ça le but, hein. Que j'aille pas en tôle. Hein. Et la justice a tout gâché, tout ça, parce que j'ai volé 650 000 euros. J'aurais dû être président. Voilà.
Je vous propose de revenir après le verdict, hein, d'accord?
Oui, mais enfin.
Allez, bonne chance,
voilà.
M. Fillon. Non, c'est bon, ça ira. En tout cas, Brice Hortefeux.
Je prends pour qui, là?
Brice Hortefeux a déclaré dans le JDD: l'élection a été faussée.
Eh, mais évidemment qu'elle a été faussée. Et cette élection, il a raison, Brice Hortefeux, c'est une arnaque, je dis, remboursée.
Eh, hey, bonjour monsieur Hollande.
Attendez.
Quoi?
Vous me donnez la parole, là?
Ben oui.
Vous êtes en train de me dire que vous me prenez à l'antenne?
Ben oui.
Vous n'avez pas m'annuler à la dernière minute?
Non, bon. Vous inquiétez pas, mais on a fait ça une fois, tu parles, allez. Alors on vous écoute.
Je ne tutoie pas, il n'y a pas de tu parles. Parlez.
Je dis tu parles?
Ah bon. Oui.
Allez-y.
Donc je fais mon allocution comme le président Macron.
Messieurs, si vous pouvez me mettre la régie, messieurs, vous pouvez mettre la femme Fontaine derrière moi. Voilà, et la Marseillaise, s'il vous plaît. Française, là il faut couper là. La régie, il faut couper parce que je parle. Française, français. Bon, on recommence.
Oh non, pas tout. Hein.
Non, pas d'accord. Française, français. Mes chers compatriotes, je demande à ce que l'élection présidentielle 2017 soit rejouée la semaine prochaine. Car la justice, sous la houlette de Madame Moulette, m'a volé ma victoire.
Oh là là, c'est bon ça. Non mais pardon, mais vous étiez déjà retiré quand François Fillon a eu ses ennuis.
Oui, eh bien, je demande à ce que l'élection soit annulée quand même, ne serait-ce que pour une raison évidente.
Ah bon, quelle raison?
Ben, pour emmerder Macron, alors. Vous savez, moi, ça me suffit pour être heureux, moi, vous savez. Et Édouard Philippe, vous avez vu ça? Vous l'avez répété, dit répété, Édouard Philippe, pour cette popularité étonnante.
Bah, oui,
ah, ça, il n'aime pas Macron, qu'on rappelle que son Premier ministre est plus populaire que lui. Et bah, de loin,
c'est
de loin.
Eh bien, écoutez, on vous remercie d'être passé, monsieur Hollande.
Hein. Merci beaucoup. Il se présente.
Dany Cohn-Bendit est très remonté contre Emmanuel Macron et il est avec nous ce matin, Dany.
Ouais, bonjour Thomas. Bah, je dis Thomas, on sait jamais, c'est le mercato, on sait jamais, il peut revenir Thomas.
Sait-on jamais.
Hein, je vais pas changer mes habitudes à la 48e minute.
Alors, je vais vous citer, Dany. C'est idiot de construire un rempart anti-écolo pour marcher main dans la main avec la droite conservatrice, avec des ringards comme Gérard Collomb. Voilà ce que vous avez dit.
J'ai dit ringard.
Oui.
Ah, c'est pas bien. Ah. Non, c'est pas. Non, si c'est dire ringard, c'est pas bien. Je regrette. J'aurais dû dire débris. Hein, j'aurais dû dire vieux crouton. J'aurais dû dire traite. J'aurais dû dire résidu, tête de pain sucée. Hein? Gérard Collomb, t'as pas de cou et t'as pas de colonne vertébrale non plus.
Oh là là, mais calmez-vous, oh Dany. Allons. Et puis vous avez dit aussi, écoutez, vous avez dit, je voterai écolo partout où les écologistes sont en passe de prendre la mairie.
Mais carrément, Thomas, je voterai écolo à Lille. Je voterai à Lyon, écolo, je voterai écolo à Strasbourg, à Bordeaux, écolo.
Non, mais attendez, mais vous êtes où là, Dany?
Hein, quoi, où je suis quoi?
Vous êtes là, en ce moment, vous êtes où?
Ah, ben en Allemagne. je vote qu'en Allemagne, oui, bon, ben. Ouais, du coup, mon engouement, on s'en fout un peu.
Un petit peu, oui.
Bon,
oui.
Ben, c'est ce que je te dis. Ben, je te dis au revoir, Thomas.
Eh ben, on vous dit au revoir, Dany. On termine avec Jean-Marie Bigard qui a annoncé qu'il allait finalement se lancer dans la course à la présidentielle pour 2022. Patrick Sébastien, vous avez tenté de l'en dissuader, il paraît.
Ouais, salut, Jusel, salut, on va tuer, ouais, salut à tous. Écoute, ouais, Jean-Marie, c'est mon pote. Et moi, je pense qu'il n'a aucun intérêt à se lancer en ce merdier, tu vois. J'en parlais hier avec lui et avec un pote à nous, un magicien suédois qui arrive à sculpter le visage de Popek les yeux bandés. Ouais, extraordinaire,
on
veut voir ça, le mec qui jongle avec une tronçonneuse sur une musique d'Annie Cordy, il te reproduit un Popek de 3 mètres de haut et après, c'est génial.
Oui,
c'est...
d'accord, mais... Non, mais s'il vous plaît, on peut rester concentré. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec Bigard?
Ah ben, j'ai dit à Jean-Marie, Jean-Marie, si tu te lances là-dedans, faut que tu affines ta vision politique. Ça va être quoi ton positionnement vis-à-vis de la politique économique européenne? Ouais, aujourd'hui, le clivage nord-sud, il se fait surtout au sujet des eurobonds. Tu vois, les eurobonds, parce que Merkel, elle a accepté le deal en faisant la grimace, donc les budgets sont incertains. Et c'est ça la grande question demain. Ouais, ouais. Hey, je t'ai scié la nouille là, Julie.
Ah bah oui,
droit. Barré. Vous n'attendiez pas à ce que je m'y connaisse. Hein.
Ah bah non, hein, on avoue que c'est surprenant là. Bon, qu'est-ce qu'il vous a répondu alors, Bigard?
Ah ben, il m'a répondu Merkel, qu'elle aille se faire enculer. Je lui ai dit Jean-Marie, merde, t'es pas prêt pour être président. Après, peut-être que je me trompe, après tout. Donald Trump, il a commencé comme ça aussi. Ah, d'ailleurs, mon pote Donald Trump, il faut que je vous montre une vidéo qui est géniale.
Oui.
C'est un jongleur chinois, naturiste.
Oui.
Il fait tourner les assiettes avec le visage de Donald Trump sur les assiettes,
oui.
Mais sans les mains et sans les pieds. Je te laisse imaginer avec quoi il fait tourner. C'est génial. Ah, la politique, c'est passionnant, j'adore.
La revue de presque, Nicolas Canteloup et Julie, bien sûr, le meilleur de la revue de presque, et on les retrouvera en direct tous les matins, à partir de lundi, 8h55.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Et nous sommes avec Philippe Vandel de 9h à 11h, c'est Culture Média, la matinée qui continue. Bonjour mon cher Philippe.
Bonjour Mathieu. Notre info média du jour dans Culture Média, ce sera le nouveau podcast d'Europe 1 Studio, ah, le oui. Son de vie, voyage sonore vers la résilience avec des récits d'hommes et de femmes qui ont tous été victimes d'un trauma ou d'un accident de vie. Sigolène Vincent, rescapée de l'attentat de Charlie Hebdo, et Sébastien Guyot, initiateur de ce podcast, seront avec nous.
Écoutez, téléchargez-le, mais écoutez Sébastien dans Culture Média justement.
Exactement. Notre invité média, ce sera Éric Brunet qui a quitté BFM TV et qui fait sa rentrée sur LCI, Gros Mercato. Essayiste, animateur, il est le nouveau visage de la tranche 10h midi avec une émission de débat, d'analyse, pas franchement à gauche. Ça s'appelle Brunet Direct. Direct, c'est le mot. Et puis enfin, culture, avec l'ancien conseiller grands événements de François Hollande, c'est Pierre-Louis Basse qu'on connaît bien ici pour la sortie de son roman très autobiographique. Ça s'appelle Rien n'est perdu, il vous dira pourquoi. Il y aura son portrait inattendu par Hélène Manarino. Et Pierre-Louis Basse, on le connaît bien ici. Il était au sport ici,
un
on a un document.
De la maison.
Mais oui, c'était la finale olympique de Marie-Josée Pérec, Pierre-Louis Basse dans ses œuvres.
Tout le monde a pris la décision de faire une course en tête et d'aller très très vite, mais pour l'instant c'est bien parti.
On sort du virage et Marie-Josée Pérec maintenant doit faire l'effort.
Oui,
Marie-Josée Pérec revient à la hauteur de Olga Brisguignard. Marie-Josée Pérec va dépasser Brisguignard. Marie-Josée Pérec se doit de le faire. Elle est seule au monde désormais. Marie-Josée Pérec va être championne olympique. Oui, 48-85. 48-85, Marie-Josée Pérec est championne olympique.
Wow. On est crevé pour lui.
Ah ouais, mais ça c'est du commentaire. J'ai toujours dit, les journalistes sportifs quand même, vous leur donnez un micro,
ouais.
Ils peuvent parler 24 heures, 25 heures, vous tenir l'antenne comme ça, c'est un talent. Pierre-Louis Basse et Dominique Bressot, voilà. Saluons les anciens de la maison.
Ouais. Dominique Bressot qui faisait la F1.
Oui,
je l'adorais. J'adorais Dominique Bressot et la F1.
Voilà, et c'est Philippe Vandel, c'est Culture Média, c'est de 9h à 11h la matinée qui continue. Merci mon cher Philippe, on va écouter tout cela avec passion. 8h57 déjà, bah moi il me reste à tirer ma révérence. Vous dire qu'on revient demain matin, Sébastien Krebs qui va réveiller tous nos auditeurs à partir de 5h du matin. Sébastien Krebs et toute son équipe. Moi je serai là en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter. Thank you.